Bien, je crois que tout le monde est à peu près revenu et opérationnel. On va donc reprendre pour cette session de l'après-midi qui va être consacrée dans sa grande majorité, comme je l'annonçais ce matin, à une sous-opération du programme Paysage Sonore qui a été lancé à l'initiative de Christophe Vendry, ici professeur à Rennes 2, autour d'un instrument en un contexte. Donc on fait un petit peu une synthèse des deux approches méthodologiques de ce matin. On a eu une approche topographique, on a eu une approche par type d'instrument. Et là, l'enquête qui a été lancée est sur un type d'instrument précis que sont les grands instruments avant les cornois de Pompéi, et donc un espace, un contexte de découverte qui est le contexte de la cité vésuvienne de Pompéi. Autour de ces objets, une équipe pluridisciplinaire a été constituée avec des historiens, donc Christophe et moi-même, avec un acousticien, René Cossé, qui parlera après, et un archéométallurgiste du Centre de restauration et de recherche du Musée de France, Benoît Mille, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais dont René présentera une partie de ses travaux et de ses résultats sur les cornois. Un premier temps, donc, par Christophe Vendry, sur Pompéi de manière générale, une approche sur la musique à Pompéi, et on va aller de manière de plus en plus précise vers l'étude des instruments en eux-mêmes.
Merci aux organisateurs pour cette invitation. Donc je vais évoquer le dossier de Pompéi qui va servir d'introduction à la communication de mes collègues et les communications qui vont suivre, qui seront plus précises sur un type particulier d'instrument. Alors, dans la tradition, on dit qu'il n'y a rien de plus silencieux qu'une ville recouverte par les cendres d'un volcan. C'est le cas donc de Pompéi et d'Herculanum, dont on a donné une fausse image, l'image d'une cité qui serait figée dans le temps à un moment donné. Et nous allons voir que la réalité est en fait plus complexe. Et ce qui pourrait passer pour un site idéal concernant la recherche sur les origines de la musique, eh bien, présente un certain nombre de difficultés, même si le matériel est tout à fait abondant. Alors, Mary Bird, dans son dernier livre sur Pompéi, croit deviner à quel point cette ville était bruyante et sonore. Elle évoque les clochettes des animaux, les gongs, les tintinnabulas, les gongs comme celui qu'on a retrouvé dans les thermes de Stabie, et qu'évoque Sénèque dans les textes à Rome, le cri des ânes, le chant des oiseaux, le bruit des chars lors du passage dans les ornières. Elle évoque ce qu'elle appelle le soundscape, le paysage sonore. Mais nous ne sommes là que dans l'évocation. Or, ce sont les réalia qui vont véritablement nous orienter vers les réalités de la vie musicale et sonore à Pompéi. Et nous allons essayer de voir quelles sont les qualités et les limites des sources dont on dispose, puisqu'il n'existe pas de texte littéraire qui permettrait d'évoquer la vie musicale à Pompéi. Pas non plus de partitions, de musique notée, beaucoup de réalia, des vestiges d'instruments bien datés, ça c'est une chance, avec ce terminus qui est le 24 août 79, même si cette date est remise en question depuis quelques années, l'éruption pourrait avoir lieu à l'automne, ça ne change pas grand-chose, une iconographie très abondante, et enfin, une spécificité de Pompéi, les graffitis, les dipinti, les inscriptions sur les murs, qui ont permis notamment de trouver un certain nombre de mentions renvoyant à des spécialités musicales, le chitarri douce, c'est du latin vulgaire, pour le chitarro et douce, le citarode, celui qui chante et qui joue de la cithare, l'ascolès, un mot très rare, translittéré du grec, qui renvoie au joueur de cornemuse. On a aussi le mot tubicène, le joueur de trompe, ou musicus, terme générique pour désigner le musicien. Alors, quelles sont les pistes de recherche qui sont possibles ? L'organologie, c'est-à-dire l'étude des instruments de musique, l'acoustique, La lexicographie, on vient de le voir, donc les noms des musiciens et leurs spécialités, l'iconographie musicale, l'historiographie, parce que on va le voir, il faut reprendre l'histoire des découvertes, une histoire sociale du musicien à travers les usages sociaux de la musique à Pompéi, et la réception de la musique antique, parce que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, Pompéi a servi de modèle au XIXe siècle, et on a construit tout un discours sur la musique à Pompéi, qui était considérée comme particulièrement représentative de ce que pouvait être la musique romaine. Alors les travaux récents sur Pompéi portent sur l'hydraulique, sur les origines de Pompéi, sur les nécropoles, et ont eu une certaine publicité. Si on ne parle pas des travaux sur la musique, c'est qu'ils sont plutôt confidentiels, qu'il n'y a pas eu de découvertes récentes, majeures, nouvelles, concernant ce domaine. Et vous allez le voir, c'est parce qu'on reprend en fait la documentation ancienne. Pompéi, c'est avant tout un dossier où il faut recontextualiser des découvertes très mal documentées, anciennes, établir des comparaisons avec des vestiges connus dans l'Empire. Et comme le rappelait Jean Andreau, un spécialiste de Pompéi, il va de soi que l'examen du mobilier pompéien ne fait de sens que s'il est replacé dans l'histoire de la Campanie et dans l'histoire de l'Italie romaine. Hein, Pompéi n'est pas un isola, il faut en effet élargir les comparaisons et replacer ce mobilier dans l'environnement local, régional et dans le contexte italien. Alors, très tôt, dès le XVIIIe siècle, les premières fouilles, 1748, Herculanum, puis Pompéi, eh bien, les savants en Europe manifestent un intérêt précoce pour la question des découvertes musicales, puisque les premières fouilles, en effet, dans le secteur des théâtres, des deux théâtres, le Grand Théâtre et le Petit Théâtre, et dans ce secteur, permettent de mettre au jour les théâtres, mais aussi le fameux temple d'Isis, parfaitement conservé, et à l'intérieur duquel on a trouvé un ensemble de sistres. C'est la première découverte, en effet, on prend conscience de, je ne vais pas revenir sur ces instruments, de l'importance de ces instruments dans le culte isiaque, et il y a un intérêt particulier pour ce mobilier, et à ce jour, Pompéi offre la plus grande collection de sistres, Pompéi et les environs, puisqu'on a une vingtaine d'exemplaires rien que pour ce secteur. Et la découverte conjuguée des peintures isiaques d'Herculanum, qui montre probablement le rite d'ouverture d'un temple isiaque, avec les marches ici, et les prêtres au sommet des marches, eh bien, atteste de l'importance de la musique à travers les porteurs de sistres, ici et là, où ce prêtre noir... et à travers ce musicien qui joue du monolos, un olos simple, ici, ce musicien de couleur, un Éthiopien censé donner une couleur locale à cette manifestation du culte isiaque. Deuxième peinture qui complétait la première, une danse d'un personnage probablement grimé en baisse, en haut des marches de l'escalier, et à nouveau des musiciens. Tout ça, dès le XVIIIe siècle, est largement commenté et reproduit, voire même déformé, comme on le voit ici, avec ce dessin du début XIXe siècle qui transforme en réalité la scène. Alors, non seulement Mozart se rend à Pompéi à l'occasion de son voyage à Naples, mais surtout le musicologue Charles Burney, qui veut écrire une histoire européenne de la musique et veut remonter aux origines, comprend qu'il faut aller à Pompéi, hein, c'est la naissance du Grand Tour en Europe, et Charles Burney, eh bien, va recopier dans le musée de Portici, près d'Herculanum, les instruments de musique montrés sur les peintures murales et va s'intéresser aux premiers vestiges d'instruments. C'est un ouvrage tout à fait important qui va avoir un grand écho au XVIIIe siècle. Et vous voyez, à titre d'exemple, qu'il prend par exemple cette grande cithare qu'il reprend sur une fresque qui se trouve d'ailleurs au musée du Louvre aujourd'hui, avec cette muse à la cithare. Quant à la harpe, Trigone, eh bien, il la reprend sur cette peinture d'Herculanum montrant un Eros dansant au son de la harpe. Donc il est frappé par l'abondance de la documentation et d'autres après lui, comme Delaborde, dans un style plus fantaisiste, vont réintroduire les mêmes instruments, la cithare, la harpe ici, dans des scènes qui sont des scènes de genre qui introduisent finalement des personnages qui font songer davantage au XVIIIe siècle qu'à l'Antiquité. Et ce que comprend Burney, c'est qu'il faut tout de suite dessiner les vestiges. Et il nous a laissé plusieurs dessins qui ont été repris ensuite, d'instruments qui ont disparu et qui sont aujourd'hui précieux. Je veux parler de cet instrument avant, qui était probablement une trompette droite, assez énigmatique, et qui n'est connu que par les dessins de Burney et de ses successeurs, et par l'aquarelle de Weidenmüller, et qui est à ce jour introuvable dans les réserves du musée de Naples. Donc, premier temps, premier souci de documentation. Et on met la priorité sur l'iconographie musicale. La grande découverte, c'est celle des peintures murales pompéiennes et de l'abondance des scènes à caractère musical qui, bien entendu, ont souvent un arrière-plan mythologique. Comme ici, ce sont des Eros, des petits Eros, qui vont jouer de la cithare. Et certaines de ces peintures du troisième style ou du quatrième style présentent un niveau de détail qui peut être tout à fait remarquable. Ici, vous voyez le chevalet, le tire-corde avec le chevalet, les ouïes sur la caisse, les chevilles ici sur le joug, les cercles qui permettaient de faire pivoter le joug, et on a même le sentiment que cet amour est en train de réaliser ce qu'on appelle une harmonique en posant le doigt à la moitié de la corde, et cet autre personnage utilise le plectre. Donc une documentation qui peut être parfois, qui peut offrir parfois un degré de précision assez étonnant, corroboré par d'autres informations. En effet, à l'époque de la peinture murale antique, on ne connaissait que le tableau des noces Aldobrandine, découverte au XVIIe siècle à Rome et qui montrait cette femme à la lyre. Donc, il faut prendre conscience à quel point la découverte des peintures musicales de Pompéi a été une révélation très forte. Parmi les scènes les plus appréciées, les plus recopiées, même Gustave Moreau en a fait la copie, Viollet-le-Duc est venu décrire cette peinture. Il y a la fameuse scène d'Achille et de Chiron, Achille apprenant le jeu de la lyre. Achille suit l'apprentissage du centaure Chiron qui lui apprend le jeu de la lyre ici sur cette très belle représentation. L'une des scènes les plus répétées, c'est la scène que les modernes ont baptisée la leçon de musique, où Apollon donne une leçon à une jeune femme qui apprend la cithare ou la lyre et qui renvoie à un motif qui est évoqué chez Ovide dans l'art d'aimer, c'est la nécessité de l'apprentissage d'un instrument à cordes chez les jeunes filles, qui apparaît comme un élément de séduction et un élément culturel. Cette leçon de musique est déclinée de plusieurs façons. Ici, avec un maître, ici une femme qui accorde sa lyre sur une autre lyre, qui fait partie des scènes aussi les plus plébiscitées par les modernes. On la recopie maintes et maintes fois. En voici un pastiche chez Lafont, le peintre Lafont, au XIXe siècle, qui reprend les mêmes postures dans une scène recomposée. Et les pré-raphaélites ont aussi beaucoup repeint cette scène. Alors, le XVIIIe siècle, c'est aussi la fouille de la Villa des Papyri à Herculanum, dont voici le plan dressé par Charles Weber au XVIIIe siècle. Et à l'intérieur de cette villa, qui appartenait à un grand intellectuel, un grand érudit romain, peut-être Pison, on a découvert des centaines de papyrus carbonisés, d'où son nom de Villa des Papyri. Et il va falloir du temps pour comprendre que parmi ces papyri se trouvait le traité de Philodème de Gadara sur la musique. Un traité qui a été aujourd'hui édité et qui est tout à fait important et qui témoigne de la culture musicale de ce grand notable qui habitait dans cette domus suburbaine à Herculanum. Alors, autant le XVIIIe siècle apparaît comme le temps des premières découvertes, les prémices, autant le XIXe siècle figure comme l'époque de la documentation. En effet, on comprend qu'avec l'essor des fouilles, il faut désormais mieux documenter les objets. Et ce goût de la documentation, nous le devons largement à ce personnage, Fiorelli, nommé directeur des fouilles et directeur du premier musée de Naples, qui va orchestrer scientifiquement les fouilles. Et il est le premier à mettre au point cette fameuse technique du moulage des corps qui est restée fameuse, les moulages en plâtre, mais aussi des portes, des meubles, technique qui va le rendre célèbre en Europe. Et il est le premier à vouloir dresser un plan et à numéroter les îlots à Pompéi et les découvertes, l'emplacement des découvertes. Le XIXe siècle permet de faire le ménage aussi entre les idées reçues et les acquis scientifiques, et Charles Bellet, de passage à Pompéi, écrit un ouvrage intéressant, Le drame du Vésuve. Bellet est surtout célèbre parce qu'il a restauré les propylées du Parthénon Athènes, de l'acropole d'Athènes. Et Bellet arrive à Pompéi et il détruit une idée reçue concernant ce qu'on appelait les pseudo-flûtes de Pompéi. Voici ce qu'il dit dans son ouvrage. « Dans une des maisons de Pompéi, que M. Fiorelli a converti en musée, on voit un coffre qu'il a fait mouler et dont les charnières ont été une révélation. Tout le monde sait qu'on a recueilli à Pompéi des milliers de cylindres en os percés d'un ou deux trous. Les inventaires les désignent comme des morceaux de flûte. En vérité, il fallait que les habitants eussent une passion désordonnée pour la musique, car l'on trouve de ces prétendus morceaux de flûte dans chaque maison. Quelle n'a donc pas été la satisfaction de Fiorelli lorsqu'en faisant briser la carapace de cendre qui recouvrait le coffret, il vit apparaître la serrure en fer et les charnières en os qui avaient mieux résisté que le bois. Oui, les morceaux de flûte étaient en vérité des charnières que les trous servaient à fixer. » Donc c'est intéressant parce que Bellet écrit ça en 1872 et jusqu'à la fin du 19e siècle, on ne tient pas compte de son avertissement et on continue, y compris en Gaule, à présenter ces charnières comme des vestiges de flûte. Et le 19e siècle, c'est la révélation, la découverte des vrais instruments à vent qu'on appelle les tibias, les zoloi qu'a évoqué Sylvain ce matin chez les Grecs. 1867, dans la maison Caius Vibius, 4 grandes tibias, 1883, 9 tibias, 1893, 1903, on a toute une série d'instruments à vent dont voici l'état actuel. Les plus beaux utilisent l'os, l'ivoire, le bronze et l'argent, et cette abondance de matériaux laisse deviner qu'il s'agissait d'instruments qui appartenaient à des musiciens de métier, des instruments sophistiqués, chers, réalisés par des artisans qualifiés et qui ont été retrouvés en contexte domestique. donc dans une maison. Voici le remontage de ces longues tibias. Il y en a donc 4, 2 paires, 53 cm de long. Et voici ce que ça donne sur une fresque d'Herculanum. Vous voyez ces longs tuyaux qui sont joués par paires et l'instrumentiste, les yeux exorbités, qui peine à souffler dans les hanches et qui est obligé d'utiliser le capistrum, c'est-à-dire cette lanière pour soulager les joues. Une scène là aussi assez fameuse à partir du moment où elle est diffusée et recopiée dans les livres de voyage. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer l'état de ces tibias sur les photos du 19e siècle et l'état actuel, et vous pourrez mesurer la difficulté que nous avons aujourd'hui à travailler sur les instruments de musique, c'est la dégradation des objets et les restaurations très peu heureuses. Or, l'avantage de Fiorelli, c'est qu'il avait demandé à ce que les objets soient documentés sur le plan photographique. Et le 19e siècle, c'est le début des grandes agences photographiques à Naples, Broggi, Sommer, qui tenaient des boutiques de photographes et qui ont travaillé pour le musée de Naples en collaboration avec Fiorelli. Voici les 4 tibias, vous les reconnaissez dans la vitrine. Voici ce qu'on a pris pour des trompettes et qui ne sont sans doute que des tuyaux en métal qui n'ont pas d'usage musicaux. Voici ce qui a été perdu, que je vous ai montré tout à l'heure. Et voici des débris de tibia. Donc on voit qu'au 19e siècle, elles étaient parfaitement conservées en 1863 jusqu'à la fin du 19e. Voici l'état actuel des tibias, vous le voyez, rangées dans des boîtes avec du polystyrène. Et elles sont fragmentées, cassées, il y a des lacunes. Si bien que Stefan Hagel, en 2008, qui a voulu retrouver les échelles musicales des 4 grandes tibias de la maison de Caius Vibius, a été obligé pour son étude d'utiliser les clichés publiés par Howard en 1893 et qui montraient les tibias intactes jusqu'à l'extrémité. Or, ce que montre le dessin de Stefan Hagel, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, cette partie-là n'apparaît plus que sur les photographies anciennes, elle n'existe plus. Il y a des lacunes, en effet, même lorsqu'on procède au remontage des tuyaux. Donc, une étude rendue difficile et complexe par le maniement malencontreux de tous ces vestiges et leur fragilité, bien entendu. Alors, l'autre découverte que l'on clame partout au XIXe siècle, c'est la découverte des prétendus orgues. À deux moments, 1876-1892, à deux endroits à Pompéi, on trouve des plaques de métal avec un décor, avec des façades de temples et des tuyaux rangés par ordre décroissant que l'on présente comme des orgues. Voici la deuxième plaque, encore sur une photo de Giorgio Sommer avec les cymbales. Et voici l'état actuel, avec des parties comblées avec du plâtre, dès le 19e siècle, ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes. Et début 20e siècle, on écrit plusieurs articles sur les origines de l'orgue, et vous voyez, vous reconnaissez cet objet qui est présenté comme le chaînon manquant. En réalité, il y a très peu de chances que ce soit un orgue. Il s'agit probablement soit d'une maquette qui pourrait être utilisée sur la scène d'un théâtre, soit d'un instrument mécanique dans le style de ce que faisaient les savants alexandrins. En tout cas, il n'y a pas de cuve, pas de pompe. La structure ne témoigne pas de la présence de véritables tuyaux d'orgue. C'est un instrument qui, en tout cas un objet qui pose un vrai problème et qui est difficilement utilisable et étudiable aujourd'hui à cause de l'état de dégradation. voici à nouveau cette photo. Et les savants du 19e siècle, je pense à Gussmann dans son très beau livre qui paraît début 20e sur Pompéi, se contentent de recopier les instruments de musique sur les clichés. Voilà le cliché qu'il a utilisé, c'est celui de Rive, pour dessiner cette planche. En réalité, bien qu'étant allé à Pompéi, Gussmann n'a pas dessiné les objets en les observant directement. Donc on se contente souvent de recopier, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Alors non seulement le sujet intéresse les archéologues au XIXe siècle, mais aussi certains musiciens et musicologues. Berlioz passe à Pompéi en 1831, il rêve de se retrouver dans une maison, dit-il, où il rêve de rencontrer de ravissantes esclaves jouant de la lyre, et il regrette, dit-il à la fin du texte, « je n'ai même pas pu voler pour mon père un petit débris de fresque, de mosaïque », puisqu'il dit qu'il est empêché par le gardien de subtiliser un petit élément. Plus sérieusement, il va au musée de Naples et il fait teinter deux cymbales. Il le raconte dans son journal. « J'ai vu ce matin au musée des instruments de musique antiques. J'ai essayé deux paires de petites cymbales. Pour les instruments avant, ils sont tous incomplets. » Et ces cymbales vont beaucoup lui plaire puisqu'il va les réutiliser dans « Roméo et Juliette », ce qu'on va appeler les cymbales à l'antique. C'est à partir de ces cymbales-là que nous avons observé à Pompéi que Berlioz va reprendre ce modèle pour l'intégrer dans l'orchestre. Camille Saint-Saëns, lui, beaucoup plus documenté, veut venir à Pompéi, il y vient quand même à 4 reprises, pour compléter ses études sur la lyre et la cithare antiques. Et il observe non seulement les fresques que nous avons évoquées tout à l'heure, mais qui plus est, Saint-Saëns vient au musée de Naples et il passe beaucoup de temps à observer cette sculpture, ici, ce petit Apollon en bronze, il nous dit, la cithare avait encore des cordes d'argent, faites de deux brins tordus ensemble, il y avait les chevilles, j'ai remarqué leur forme inattendue. Malheureusement, depuis, on a réparé cette statuette, on a fait rentrer de force les chevilles dans les trous de la traverse en les déformant, sans s'apercevoir que l'on détruisait un document de haute importance et probablement unique au monde. Donc il a conscience de l'unicité de certains documents, et en effet des cordes de bronze, en fil de bronze, étaient encore tendues sur cette cithare, la cithare de cet Apollon. Et il se documente beaucoup, et on va retrouver le fruit de cette documentation dans ses publications à partir de 1912 sur les lyres et les cithares antiques. Donc l'idée qu'il faut passer par Pompéi pour désormais apporter des nouveautés en matière d'information. Alors, la plupart des instruments que j'ai évoqués avec vous ont été découverts en contexte domestique. Curieusement, les lieux de la musique, les lieux publics de la musique sont très limités à Pompéi. Si on résume, il y a donc les deux théâtres, la zone des théâtres ici, le forum, la grande place, qui devait servir à des manifestations et aussi probablement musicales, et enfin l'amphithéâtre. Tout cela est très peu. Nous ne sommes pas documentés sur ce qui se passait sur la place du Forum. En revanche, le fait qu'il y ait un Odéon à Pompéi, ça traduit une influence hellénique. C'est Sylla qui, en 80, demande la construction de l'Odéon, qui en latin s'appelle Theatrum Tectum, un théâtre couvert, et qui portait à l'origine un toit en bois qui permettait de favoriser la résonance, puisqu'on y faisait de la musique et on y déclamait de la poésie. Voici au XIXe siècle comment d'ailleurs on imaginait les spectacles à l'intérieur de cet Odéon. On a même rétabli le toit. On pense que dans le théâtre et l'Odéon, naturellement, on jouait des comédies, des mimes et de la pantomime à l'époque impériale. Et là, Pompéi a laissé une grande documentation sur le thème du théâtre, avec à la fois des scènes génériques, des topoi, et puis des scènes plus particulières. celle qui est fameuse, c'est la mosaïque de Dioscorides, d'époque hellénistique, qui montre une scène sans doute tirée du théâtre de Ménandre, et avec des musiciens, des acteurs aussi déguisés en musiciens, puisque le personnage a un masque de femme à gauche, est dupliqué sur une peinture retrouvée aux portes de Pompéi, la même scène exactement. Il est intéressant aussi de noter la proximité du temple d'Isis avec le théâtre, et des études récentes ont montré que dans le sanctuaire de Némi dans le Latium, à Pompéi et ailleurs, il y avait une connexion entre les temples isiaques et les théâtres, et on pense que c'était volontaire pour les processions, le déroulement des processions. Et ce n'est sans doute pas un hasard si on trouve le portrait d'un acteur à l'intérieur du sanctuaire isiaque, en effet, à Pompéi. Dernier espace sur lequel je vais conclure, l'amphithéâtre. Le paradoxe, c'est que cet espace, nous disent les spécialistes, n'est pas un espace qui est conçu pour l'acoustique. En effet, à la différence du théâtre et de l'Odéon, ce qui prime, c'est l'aspect visuel dans l'amphithéâtre, d'où cette forme d'ellipse qui permet de suivre un spectacle qui se déplace. Et paradoxalement, c'est sur ce type de spectacle où la musique ne jouait qu'un rôle accessoire que nous sommes le mieux documentés. En effet, on a retrouvé sur le mur du parapet ici des peintures qui depuis ont disparu, connues par des aquarelles, qui montrent un gladiateur sonnant de la trompette, et beaucoup de documents à Pompéi, des graffitis, montrent la trompette de la gladiature, représentée ici de façon schématique, ce qu'une collègue italienne a pris pour des auréoles, hein, les personnages nimbés, dit-elle, mais non, ce sont les fameuses trompettes courbes que l'on voit ici, qui sont bien entendu schématisées sur ce graffiti. Que l'on retrouve sur la documentation ailleurs, cette gemme avec le joueur de trompette courbe et les trompettes droites, et les mosaïques qui montrent le concert, si je puis dire, de la trompette à l'unisson de l'orgue, ce qui n'est absolument pas prouvé dans l'arène de Pompéi. Je vais m'arrêter là-dessus, je comptais évoquer le dossier que mes collègues vont présenter. Ce qui nous intéresse donc, c'est ce dossier des trompettes, des grandes trompettes de Pompéi, qui sont uniques, puisqu'ailleurs en Italie, nous n'avons aucun témoignage. Et ce dossier passe beaucoup par un travail en archives qui permet de compléter l'état des vestiges actuels. Voici les photos du 19e siècle et voici l'état actuel des trompettes qui sont en partie lacunaires et qui, comme le montrent les clichés du 19e, ont été à un moment très abîmés, démolis et reconstitués en partie pour la présentation au musée de Naples. Je vais donc m'arrêter là-dessus. Je voulais faire une évocation sonore, mais on a peut-être plus le temps. Je voulais dire juste qu'il y a deux façons d'écouter les trompettes aujourd'hui. On ne peut plus faire sonner les originaux. Donc, soit on peut entendre les copies, c'est ce que va évoquer René Cosset après moi. En effet, les copies réalisées au 19e siècle, elles sonnent, mais nous verrons les limites des informations qu'elles apportent. Et l'autre version héroïsante, fantasmée, c'est celle des films. C'est une représentation de la musique des trompettes dans le péplum, avec une sonorité qui est recherchée de la part des compositeurs, et notamment Miklós Rózsa, extrêmement brillante, et qui devient aujourd'hui un topos dans le péplum concernant les accents des trompettes. Voilà, je crois que ça suffira. Nos trompettes sont là. C'est tellement beau. C'est beau comme l'antique, on dira. Je ne résistais pas au plaisir de vous montrer ce morceau de bravoure, Covadis 1952, le triomphe des armées romaines.
Merci Christophe. Reste peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions, ce sera peut-être mieux si tu es là pour répondre. Quelqu'un bruyamment réveillé par Miklos Rosa a-t-il des questions à adresser à la présentation de Christophe ?
Est-ce que tu peux nous remontrer l'image de l'harmonique, s'il te plaît ? Donc, la scène des amours.
On a la même chose avec la scène d'Achille et Chiron, d'ailleurs. C'est probablement le même.
Mais c'est celui-là que je voudrais voir.
Voilà, c'est ça.
Parce que si c'est bien une scène d'harmonique, c'est-à-dire un amour en train de pincer l'accordio pour la raccourcir, et l'autre en train de jouer en bas, c'est assez intéressant parce qu'il la pince au niveau des deux tiers de la corde, donc il est en train de jouer une quinte, ce qui est un des intervalles les plus importants de la théorie musicale grecque.
Alors, c'est vrai, tu as raison. Est-ce qu'on peut aller jusque dans ce degré de... Est-ce que vraiment le peintre a voulu aller aussi loin ? On peut s'interroger, mais en tout cas, le doigt
c'est
posé sur la corde.
Ouais, mais c'est intéressant qu'il ait mis aux deux tiers de la corde.
C'est vrai, il est aux deux tiers de la corde. Tout à fait. Et on a le même geste qu'on retrouve sur Achille et Chiron. Achille pose son doigt, ou plutôt Chiron, et Achille fait sonner la corde. C'est un geste qui réapparaît à plusieurs reprises, en effet.
Juste pour expliquer, quand on prend une corde, qu'on la fait sonner et qu'ensuite on prend deux tiers de la corde, on entend la quinte de la note qu'on a jouée.
Tout à fait.
D'autres questions, d'autres marques même.
Une question de Béotienne Total. Quand on regarde ton iconographie, on dirait que, en effet, les instruments à cordes sont les plus importants dans le monde romain. Non ? Il y en a tellement. Alors que tu as dit que c'était totalement c'était pas. Tu m'as pas fait comprendre que les instruments lyre et harpe n'étaient pas si bien répandus. Non ? J'ai mal compris. Ah oui. Mais donc, vous n'avez aucun vestige, c'est ça ?
Voilà, en fait, à Pompéi, vous avez remarqué, on n'a que des vestiges en bronze, en os, en ivoire, et tous les matériaux organiques ont disparu.
Ouais.
J'ai juste retrouvé une cheville de lyre récemment, mais si, voilà. Mais en revanche, les sitares et les lyres étaient très répandus, mais pas les harpes. Ah. Ça reste un instrument marginal à Rome, ça c'est sûr.
Et dans l'image qu'on voyait où la femme accorde sa lyre d'après une autre, ce n'était pas une harpe ?
Alors, on a pris ça pour une harpe il y a longtemps, parce qu'on voit, on voit la forme. En réalité, quand on observe de près, c'est parce que le joug de la lyre, il est représenté ici. On a d'ailleurs les deux sphères qui délimitent... C'est que la lyre, elle est montrée à plat, il n'a pas bien su la représenter. Et alors, ce type de harpe-là n'existe pas à Rome. À l'égyptienne, ce qu'on appelle la harpe archée, on n'a que des harpes trigones. Donc, il y a eu un malentendu là-dessus pendant très longtemps, jusqu'à... Effectivement, on parle d'une scène avec une harpe. Je crois que c'est un malentendu. Oui, oui, tout à fait... Je sais pas.
Je voudrais juste revenir sur l'orgue. Donc, effectivement, que l'objet qu'on trouve dans beaucoup de littérature n'en soit pas un, ça paraît absolument convaincant. Maintenant, il y a quand même des représentations dans l'iconographie. C'est-à-dire que c'est quand même un instrument qui existe dans l'Antiquité.
Bien sûr. C'est passé très vite. Et on a même des vestiges ailleurs, des véritables vestiges d'orgue.
Ah, on en a ?
Oui, bien sûr. À Aquincum, au bord du Danube, aujourd'hui en Hongrie. Sur le site d'un camp romain, d'une ville romaine, on a retrouvé dans le local des pompiers un petit orgue. Le plancher a brûlé, il s'est affaissé. On a retrouvé toutes les pièces de l'orgue.
Et il est en quel matériau ?
En bronze.
En bronze ?
Tout le sommier est intact, les tuyaux.
Oui, donc à la différence des orgues modernes qui sont dans des dans l'étain, des alliages plomb éteint.
Voilà. Et ça a été bien étudié. Malheureusement, là aussi, ça a été bricolé. Non, il y a des pièces qui ont été volées depuis. Mais on a des vestiges d'orgues et une iconographie. Donc il y avait bien des orgues, ce qui nous amène à mettre en. Ouais, voilà. Voilà, il en existe.
Alors, excusez-moi, il se peut que j'ai mal lu, mais il me semble qu'à un moment, sur une de vos diapositives, vous avez mis qu'il y avait de retrouver entre 3882 et 3883 tibias.
Non, c'est la date au 19e siècle. Ce sont les dates des découvertes.
Ah d'accord, j'ai vu un... D'accord.
Non, autant. Au maximum, on a trouvé 9.
Oui, c'est pour ça que ça...
Le plus gros lot, c'est 9 tibias, ce qui est déjà pas mal, vous en conviendrez. Donc ça fait quand même presque une quinzaine de tibias rien que sur le site de Pompéi, ce qui n'est quand même pas rien, même s'il y en avait sans doute beaucoup plus, mais à ce jour c'est le seul site qui a livré autant de vestiges d'instruments de musique, donc même s'il y a beaucoup de problèmes, c'est quand même la récolte la plus importante.
D'accord, merci, ouais. J'ai mal lu.
On n'a pas l'équivalent ailleurs. Non, on aimerait bien 1883.
3883. D'autres questions, remarques ?
Eh bien, je vais céder la place à Monsieur Vincent, qui vient de publier sa thèse à l'École française de Rome.
Achetez-la, c'est pas cher.
Sur les musiciens de métier, on peut même la faire circuler. Qui vient de sortir.
C'est un très beau cadeau pour la fête des mères.
Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je vais me servir du travail que Christophe vient de présenter sur Pompéi de manière générale pour avancer une présentation plus spécifique sur les cornois, sur les types d'instruments qui vous ont été montrés. Et en dernier lieu, René vous présentera lui-même les fruits de l'enquête collective qu'on a menée. Et je vais pour cela me servir de documentation pompéienne, mais aussi de manière générale de l'Occident romain. Dans sa troisième satire, Juvénal énumère toutes les bonnes raisons de son ami Umbricius pour quitter la ville de Rome et pour se réfugier à Cumes. Les maisons s'écroulent, les poètes passent leur temps à hurler leur chef-d'œuvre en plein mois d'août. Bref, l'Ourpe est devenue complètement invivable. Seuls réussissent à s'en sortir, nous dit Juvénal, ceux qui se chargent par contrat de l'entretien des temples, des fleuves, des ports et des égouts, ceux qui déplacent les cadavres ou ceux qui vendent les esclaves aux enchères, donc une catégorie d'hommes bien sordides que rien ne rebute et qui s'enrichissent en contrepartie de leur absence de scrupules. De ces individus, Juvénal donne deux exemples. Artorius et Catulle, des anciens musiciens, des corniquines, joueurs de cornou, qui autrefois jouaient lors des jeux et qui maintenant les donnent, qui décident de la vie ou de la mort des combattants et ensuite s'en vont, merci, des fois qu'il y a un doute, qui s'en vont affermer l'entretien des latrines pour continuer à augmenter leur richesse sordide. Le choix de la part de Juvénal d'incarner en ses musiciens les mutations sociales du premier âge impérial est révélateur non seulement des mouvements de mobilité économique et sociale qui sont par ailleurs bien documentés par l'épigraphie notamment, mais aussi des fantasmes que pouvaient susciter les musiciens intervenant dans la vie des cités. Les cornicines, les joueurs de cornou, sont des figures bien connues des habitants des cités romaines. Ils sont, par ailleurs, nous dit Juvénal, toujours lui, dans une autre satire, les compagnons perpétuels de l'amphithéâtre municipal. Et Christophe vous en a donné quelques exemples, je vais en rajouter quelques-uns. L'objectif de du temps de présentation d'aujourd'hui, c'est de déconstruire en partie ces fantasmes autour du cornou par un double mouvement qui correspond à deux temps de la présentation. D'une part, mettre en contexte le rôle de ces musiciens dans les cités, leur usage social, à quoi servaient ces corniquines, et donc, en contrepartie, si l'on revient sur le dossier pompéien, comment explique-t-on donc la découverte de ces 5 instruments dans la cité qui est engloutie, comme l'a dit Christophe, par une nuit de fin août, automne 79. Pourquoi donc y avait-il ces instruments et que faisaient les musiciens? Et puis, deuxième temps de la présentation, une tentative d'histoire plus sensible sur les perceptions
des cornois, et ça fera écho à la discussion qu'on a eue tout à l'heure autour des sistres. Que signifiaient les sons et comment étaient-ils perçus? Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de partir au ras des textes et de mettre les mains dans la, non pas dans la matière en bronze, mais bien dans la matière littéraire. Par une enquête lexicographique. Donc essentiellement deux types de sources qui vont être mobilisées, l'iconographie dans un premier temps et puis la matière littéraire dans un deuxième temps. Alors dans un premier moment de cette présentation, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que le cornou était par essence l'instrument des cités et comment est-ce qu'il incarnait aux yeux et plutôt aux oreilles des citoyens l'imperium, le pouvoir de commandement, le commandement militaire ou civil. Je commence la présentation par ce qui est le plus documenté, Christophe vient de le dire, à savoir la participation de ces musiciens au jeu, et avec cette fresque qu'il a située dans son contexte de découverte, une fresque de quatrième style qui est découverte en 1815 dans l'amphithéâtre, et sur lequel on voit un gladiateur, un homoplacus, qui est en train de souffler dans un cornou. Il est, comme vous le voyez, torse nu. En face de lui, un autre combattant est en train de se préparer. Au milieu, l'arbitre, Soumaroudis, qui porte son bâton. Et il s'agit probablement du moment où les deux individus sont en train de se préparer, le dernier moment avant l'affrontement. On a un individu qui semble être à la fois un gladiateur et un musicien, ce qui ne va pas s'en poser problème, parce que ce serait un cas unique d'être à la fois gladiateur et musicien, et selon toute probabilité, on a là une concaténation, comme les images anciennes le font assez souvent, soit une concaténation dans le temps, on a un musicien qui souffle son propre triomphe, sa propre victoire par anticipation, soit une concaténation de personnages, à la fois un musicien et un gladiateur, qui sont représentés en un seul individu. Cette peinture était particulièrement bien située dans l'amphithéâtre, elle se situait juste au débouché, quand les gladiateurs rentraient sur la piste, ils voyaient cette scène et tous les autres gens rassemblés dans l'amphithéâtre la voyaient eux aussi évidemment. Alors quand intervenait-il et à quel moment des jeux ? La combinaison des documents que nous avons à disposition permet de souligner le fait que ces musiciens intervenaient à divers moments de la cérémonie ludique, Juvénal, toujours lui, les place aux côtés de l'organisateur des jeux quand ce dernier participe à la procession qui conduit les acteurs de la journée au lieu des réjouissances. Ajouter, lui dit-il dans la description de la pompa triomphale, de la pompa des jeux, procession des jeux, ajouter le bâton triomphal en ivoire surmonté d'un aigle qui s'envole, d'un côté les corniquines, de l'autre le long cortège bénévole qui le précède, les kirites en toge neigeuse marchant auprès de ses chevaux et dont la sportule enfouie dans leur bourse a fait ses amis. Les corniquines participaient donc à la procession et participaient à la mise en scène de la gloire de l'éditeur des jeux, et pour autant ils ne se taisaient pas une fois les jeux déclarés ouverts, bien évidemment. On a ainsi un certain nombre de témoignages iconographiques qui montrent l'action de ces musiciens au cours des combats, et ces témoignages, que je ne vais pas multiplier, en tout cas convergent autour de l'idée qu'ils jouaient à de nombreux moments, peut-être en continu durant les Jeux. Vous avez ici un monument funéraire d'Italie centrale, le monument du Sévir Caius Lusius Thorax, qui est à Chieti actuellement, qui représente... où est-ce que... Quelqu'un a-t-il... Christophe, t'as volé le pointeur? Ah, pardon. Sinon je le fais avec ça. Oui, c'est bon, ça va aller avec... qui représente dans le tympan l'éditeur des Jeux, ici, entouré des curions, qui assiste peut-être à l'ouverture des jeux ou à la cérémonie des jeux, au déroulement des jeux en eux-mêmes. Sur le côté, dans les tympans dans les parties les plus fines du tympan, vous avez ici des joueurs de tuba, la longue trompe droite, et puis sur le côté ici, je vous ai mis un grossissement, les corniquines qui sont eux aussi en train de souffler. Alors par convention et par aplat, il semble souffler directement en direction de l'ensemble des décurions, mais Mario Torelli a bien montré qu'il s'agit en réalité d'une convention iconographique pour représenter une disposition à angle droit par rapport à la scène principale. On a donc des musiciens qui sont en train de jouer en direction non seulement de l'ordinateur des jeux, mais aussi de l'ensemble de la population, et qui jouent selon toute probabilité aussi pendant ce que représente la frise situé dessous, à savoir pendant le déroulement du Munus, pendant le déroulement des combats de gladiateurs. Alors, je passe parce que Christophe vous a déjà montré cette scène qui montre là encore les musiciens en pleine action pendant qu'Hilarus et Creunus sont en train de compléter les victoires. Celle des deux l'emportera. Ils ont indiqué combien ils l'avaient emporté de victoires. Ils avaient emporté de victoires jusqu'à présent. Et leur combat est rythmé par les instruments de musique. Enfin, je vous montre une toute dernière représentation avec cette magnifique fresque gladiatoriale du nord de Rome, où vous avez, découverte à Fiano Romano, où vous avez un combat qui est en train de s'achever. Vous voyez ici le perdant qui a une épée qui est en train de lui rentrer dans le cou, malheureusement, pendant que le musicien est en train de souffler. Il a la bouche qui est pleine d'embouchures. Il est en train de jouer. Je ne multiplie pas les exemples, je change juste de support une dernière fois pour vous montrer cette extraordinaire mosaïque de Tripolitaine de Zlitten, où les instrumentistes sont représentés en même temps qu'un organiste et qu'un joueur de tuba, et le Munus est en train de se dérouler dans l'ensemble du bandeau. Ici c'est le bandeau nord, et le bandeau sud réplique le déroulement de la journée de jeu. Donc on a des musiciens qui jouent en même temps que les combats sont en train d'être joués, sont en train d'être donnés. Pour quelles raisons utiliser ces instrumentistes au cours des différentes étapes des jeux? La raison la plus évidente est la puissance acoustique de ces instruments-là. J'en dis pas plus, puisque je laisse l'acousticien de la bande développer sur la puissance des instruments. Autre possibilité d'explication, l'idée du plaisir sensoriel total, et je rejoins peut-être là l'idée de la brillance des instruments qu'énonçait tout à l'heure Dorothée. On a des instruments qui devaient rutiler au soleil, on a l'odeur du sang qui flotte dans la... Non, c'est pas dégueulasse, ne juge pas de point de vue de ta civilisation. L'odeur du sang qui monte, la poussière du sable que vous avalez, les armes qui brillent, et les instruments qui brillent, et le son, évidemment. Et dernier élément, le plus évident, la recherche des effets par le son. Les auteurs anciens sont nombreux à rapporter l'effet qui était exercé par les sonorités d'instruments en bronze sur leurs auditeurs. Pour reprendre leurs termes, les grands aérophones sont là pour stimuler, voire pour enflammer. Lucain, auteur poète du 1er siècle, décrit par exemple, dans un contexte militaire, les conséquences des sons du cornou qu'émettent les armées de César au moment où il franchit le Rubicon, et qui entraîne irrépressiblement le désir de la guerre. Lorsque le soldat occupant le forum eut reçu l'ordre d'y déposer ses enseignes, le litouus persan, grand aérophone, et la tuba éclatante jouèrent avec le rauque cornou un classicum impie. Le peuple s'éveille, les citoyens arrachés au sommeil se saisissent des armes suspendues autour de leurs dieux domestiques, des lares, des boucliers rompus, des lances émoussées, des glaives dévorés par la rouille, tels que les offre une longue paix. Le son des grands aérophones de bronze excite, stimule, provoque la guerre, même si on est là évidemment dans un poème. Un contexte d'œuvre poétique. L'association des corniquines à la guerre, en raison de l'effet excitant des sonorités, est une évidence pour tous les auteurs. Elle est, pour Olugel, une constante à laquelle ne s'étaient soustraits que les Spartiates de l'ami Sylvain, qui cherchaient, par un changement de sonorité, non pas à exciter, mais au contraire à régler la modération des soldats. Thucydide, ce grave historien, rapporte que les Lacédémoniens, peuple belliqueux s'il en fut, n'allaient point au combat au son du cornou et de la tuba, mais aux accents mélodieux de la tibia. Ce n'était point pour observer un rite sacré, ni pour accomplir une prescription religieuse. C'est qu'au lieu d'exciter et d'enflammer le courage par les éclats du cornou et du litouus, ils voulaient régler et modérer l'ardeur de leurs guerriers par les modérations de la tibia. Quintilien, enfin, revient sur cette pratique musicale et guerrière lacédémonienne. Il la compare à celle des Romains, au profit, évidemment, des Romains, des vainqueurs. L'histoire nous apprend que les plus grands capitaines jouaient de la lyre et de la tibia, et que les armées des lacédémoniens s'enflammaient aux accents de la musique. Les cornouas et les tubaïs de nos légions ne produisent-ils pas le même effet? La supériorité des armes romaines semble être en rapport avec la véhémence de leurs accents. Stimulés, excité, enflammé, l'effet des aérophones en contexte militaire peut aisément être transposé sur le sable de l'arène. Là aussi, il est question pour les gladiateurs, transportés par le son, de produire un combat le meilleur, le plus disputé possible. Le son du cornou, propre à troubler l'âme, je reprends là une expression de Virgile, avait donc des effets puissants à même de justifier sa présence lors des jeux de l'amphithéâtre. Cette croyance dans la possibilité d'un effet des sonorités musicales sur leur environnement est peut-être aussi à l'origine de la présence des corniquines dans une autre manifestation importante de la vie sociale, à savoir les funérailles. J'en prends un exemple très rapide mais superbe avec ce bas-relief, là encore d'Italie centrale, il provient d'Amiterne, qui a été découverte en 1879, dans lequel on assiste à une procession funéraire qui est ouverte, vous le voyez, par deux registres de musiciens, des joueurs de tibier au premier plan, un joueur de litouze, grande trompe étrusque recourbée en son terme, et deux cornichines. Il procède des pleureuses qui s'arrachent les cheveux, il procède le brancard qui transporte la représentation du défunt, ou peut-être un acteur qui jouait le défunt, avec ici celui qui organise les funérailles, qui va à contresens et qui ralentit la procession pour qu'elle s'adapte et qu'elle n'aille pas trop vite. Derrière, les femmes et les enfants, les esclaves du défunt, et tout petit ici, un esclave qui porte les éléments nécessaires à la fumigation notamment et au rite religieux en lui-même. On a donc des instrumentistes, et donc on peut se demander la raison de leur présence. Pourquoi des musiciens ? Alors a été évoqué déjà plus tôt dans la matinée l'importance des sons prophylactiques, des sons qui feraient fuir, des sons qui permettraient à l'âme du disparu de rejoindre sans encombre la dernière demeure. On a une hypothèse d'ordre magico-religieux, c'est celle qui est retenue par le grand monsieur de l'histoire de la musique avant Christophe Vandry, Gunther Wille, Musica Romana, dans son ouvrage de 1967. Je ne me moque pas, je rends hommage. C'est vrai. Les instruments avant qui auraient donc eu pour vertu, avant toute chose, de faire un grand vacarme et d'éloigner ainsi les démons de l'âme du défunt. Il y aurait une vertu particulière pour les instruments les plus puissants et une efficacité encore plus particulière pour le matériau, le bronze. Et on explique ainsi la présence des clochettes en bronze près des tombeaux qui continueraient, une fois la pompa funébris partie, à repousser les démons par l'effet du bronze qui chasserait donc les démons de l'âme du défunt. C'est une idée qui a été énoncée, qui mériterait, à mon avis, cette vertu du bronze d'être confirmée par une enquête lexicographique dédiée. À mon avis, on peut aussi avancer une autre hypothèse. En raison du statut social du défunt d'Amiterne, vous constatez bien, même sans être familier avec ce genre de document, qu'il ne s'agit pas de la procession funéraire de n'importe quel individu. On a là un individu qui a eu les moyens de mettre en scène, même par-delà la mort, par le monument funéraire sur lequel il a fait représenter cette magnifique pampa, on a un individu qui faisait partie de l'élite sociale et, dans les cités d'Italie centrale, cela va avec, de l'élite politique de son petit monde. Il y a donc l'utilisation des grands aérophones, à mon sens, pour une mise en scène acoustique d'un événement qui est conçu comme exceptionnel. Ces instrumentistes étaient un moyen de distinction sonore. À la surface couverte par le défunt faisait écho la surface couverte par la voix profonde des instruments de bronze. Et on trouve ainsi une belle illustration de cette idée dans le texte satirique de Sénèque, l'Apocolocintos du divin Claude, la transformation de Claude en citrouille. Où au milieu de la procession, Sénèque dit « il y avait une telle quantité, un tel rassemblement de tubiquines, de cornichines, d'aenatores, c'est-à-dire de joueurs d'instruments en bronze, de toute espèce, que Claude lui-même en arrivait à les entendre, alors évidemment qu'il est mort. » L'empereur devait avoir une procession qui correspondait à son statut, et son statut nécessitait que l'on mette en scène ses musiciens dans une quantité absolument considérable. Pour autant, considérer les cornichines et ces instrumentistes de manière générale comme des sortes de décorations, de colifichets de la domination sociale, reviendrait à amoindrir la signification de leur présence. Le fonctionnement des cités italiennes, dans lesquelles, comme je le disais, élite sociale et élite politique se recouvraient une seule et même partie de la population, permet de supposer raisonnablement que notre défunt d'Amiterne a aussi exercé des fonctions politiques, qu'il a été un moment à la tête de sa cité, magistrat. Et on peut aller plus avant en faisant l'hypothèse que ces instruments n'étaient pas seulement un simple moyen pour mettre en avant la grandeur du personnage, mais bien la représentation, le symbole du pouvoir exercé par le défunt, ce qu'en latin on désigne par les termes insignia imperii. Et il est possible de voir dans cette utilisation comme symbole du pouvoir des grands instruments de bronze un héritage étrusque, ce qui est particulièrement valide pour ce document qui vient d'Amiterne, en territoire sabin, donc à la pointe méridionale de l'Étrurie, elle-même méridionale. Si l'on suit Strabon, le géographe, dans sa géographie 5.2, on avait apporté de Tarquinia, en Étrurie donc, méridionale, avec les ornements du triomphe et les insignes des consuls, les faisceaux, les haches, les trompettes, les cérémonies religieuses, l'art divinatoire et tout l'accompagnement musical des manifestations publiques romaines. Des témoignages iconographiques abondent en ce sens, et ce, en tout type de contexte funéraire étrusque. Vous l'avez dans la célébrissime tombe des reliefs à Cerveteri, où vous avez ici, vous les reconnaissez maintenant, des cornous qui sont représentés immédiatement à l'entrée ou à la sortie, suivant comment se place, de la tombe. Sur la tombe des Escanas d'Orvieto, vous avez ici un litus et là un cornou, qui vont avec le lictor portant le caducé, qui est lui aussi un des représentants, une des insignes du pouvoir des magistrats étrusques. Vous avez sur le célébrissime sarcophage des époux de Boston, qui représente d'un côté la dimension féminine et de l'autre côté la dimension masculine, vous avez ici un cornou qui est porté avec le lictor qui porte les faisceaux et qui incarne les symboles de la magistrature et donc les symboles du pouvoir. Et enfin, les urnes de Volterra qui sont produites en grande série à partir du 3e siècle avant notre ère, selon un carton qui est reproduit là encore de manière quasiment systématique pour les magistrats des cités, qui est le carton de la cavalcade, avec le défunt qui est sur son char, symbole du pouvoir, tiré par un quadrige, là, vous voyez, c'est le même symbole ici, avec les licteurs qui sont devant ou derrière, suivant, voilà, là, un licteur avec son faisceau, et qui ouvre la procession. On retrouve des musiciens, ils sont exceptionnellement en arrière ici, et pas n'importe quel musicien, des cornichines. L'Étrurie, et particulièrement l'Étrurie du IIIe siècle, il y a des contacts évidents avec Rome, puisque Rome a conquis cette portion du territoire italien en IIIe siècle. Le cornou est donc un synonyme de la domination sociale et plus encore du pouvoir de commandement qui accompagnait les magistratures supérieures. Ce pouvoir de commandement, c'est ce qu'en latin on appelle l'imperium. L'imperium a deux versants, un imperium militaire, le droit de commandement aux armées, et un imperium civil, le droit de commandement à Rome, imperium domi. Les sources romaines qui nous permettent pas de disposer de si beaux documents iconographiques, nous donnent des textes, en revanche, qui illustrent les deux versants de l'imperium, militaire et civil, et qui mettent en rapport le cornou avec les deux. Le cornou est un des trois instruments reconnus de l'armée romaine. On l'a déjà vu tout à l'heure avec des citations, notamment la citation de Lucain. Quelques images, mais qui sont célébrissimes, de la colonne Trajane. Vous voyez un cornicène ici en train de jouer, et ici, dans la cérémonie d'illustration des camps, vous avez des tubicines qui sont en train de souffler magnifiquement dans leur instrument, et un cornicène lui aussi en train de souffler. Ils ont pour fonction de transmettre ce que les latins appellent les semi-vocalia signa, c'est-à-dire les signes semi-vocaux, semi-acoustiques, pour reprendre la terminologie de Viegès, et de les transmettre, les transformer en signaux visuels. Et vous avez ici l'association de ceux qui font des signaux semi-acoustiques et de ceux, les porte-enseignes, qui se transmettent les ordres sur les champs de bataille. Il y a donc l'idée qu'ils forment avec ces individus une charnière technique qui permet de convertir d'abord en son puis en signe visuel les ordres qui sont donnés par le détenteur de l'imperium, par celui qui détient le commandement. Ils sont des moyens de communication au service du commandement, au service de l'imperium. Le cornou est, pour les soldats, la manifestation sensible à grande échelle de la voix du commandement, c'est-à-dire, il est même la voix du commandement sur le champ de bataille. La meilleure explicitation, l'incarnation de cet imperium au son des cornois correspond à une sonnerie particulière dont on a gardé le nom, c'est le classicum. Le classicum, c'est une séquence sonore qui était jouée en l'honneur des détenteurs du pouvoir de commandement. Et les sources nous montrent ainsi qu'on jouait dans le camp régulièrement, tous les jours, devant la tente de celui qui possédait le droit de commandement, le classicum. Et c'est pas l'État qu'on honorait, ou c'est pas le pouvoir de manière abstraite, c'est vraiment celui qui détenait l'imperium. S'il y avait deux commandants détenant l'imperium, on jouait deux fois. Donc c'est l'imperium qui est honoré, incarné par le magistrat à qui il est donné. L'intérêt de ce classicum, c'est qu'il a une version civile. Varron nous dit qu'il était joué pour appeler les citoyens aux assemblées lors des comices centuriates. Les magistrats qui convoquaient les citoyens pour les assemblées populaires, qui étaient les comis centuriates, détenaient l'imperium, et c'est en vertu de cet imperium qu'ils avaient le droit de faire jouer cette sonnerie qui incarnait leur ordre, qui incarnait leur pouvoir aux oreilles des citoyens. Dans les jeux, dans les processions funéraires ou dans les manifestations du droit de commandement des élites politiques de la cité, le cornou était donc par excellence l'instrument de la vie civique, celui dont les sonorités étaient gravées dans les mémoires romaines et associées au fonctionnement de leur cadre politique quotidien, et ceci à Rome, mais aussi à Pompéi, où l'on se servait du cornou lors des jeux, l'on s'en servait pour les processions funéraires, et où il y a toute bonne chance d'imaginer que l'on s'en servait aussi quand il s'agissait de procéder à des rites civiques. Alors très rapidement, dans les quelques minutes qui restent, je m'appliquerai à moi-même la même rigueur que j'appliquais aux autres, comment étaient perçues ces sonorités de la part des habitants des cités de l'Occident romain. Pour éviter ce que les historiens abordent, c'est-à-dire l'erreur chronologique, la seule solution, c'est d'essayer d'adopter une attitude d'anthropologue qui prend les catégories de pensée de ces objets d'étude, d'adopter une attitude émique et de se mettre au ras de leur pensée par la lexicographie, d'étudier dans les texte, la manière dont les sons sont décrits, afin de ne pas projeter le fait que nous pensons que c'est un instrument puissant, brillant, que sais-je. Bon, très bien, c'est notre idée. Qu'en disent les Romains? Je me suis donc lancé dans un travail de recension dans les sources littéraires des termes relatifs aux sonorités du cornou. Et par chance, il n'y en a pas tant que ça, c'est un corpus de 27 citations qui permettent de traiter de la perception sonore du cornou. La première catégorie de termes qui ressort, et ce sont donc les adjectifs de sonorité, avec un terme qui est loin devant les autres, on l'a vu tout à l'heure dans la citation de Lucain, c'est le rauque cornu, raucus, rauque en français, il faut bien traduire, raucus, le son est rauque. Bien, une fois qu'on a dit ça, on est content. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on n'a donc pas d'autre choix que de se lancer dans une autre enquête lexicographique, c'est l'enquête dans l'enquête, gigogne, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire raucus. Et donc une enquête lexicographique qui manque de bol, elle s'appuie sur bien plus d'occurrences, à peu près 200 occurrences de raucus dans les sources littéraires, et qui permettent d'essayer d'un peu mieux comprendre ce que ça veut dire que rauque. La majorité des objets qui sont qualifiés de rauque, ce sont des instruments de musique. Et des instruments de musique en bronze. Le cornou, la tuba, la grande trompe droite, est elle aussi qualifiée par les auteurs comme étant un instrument rauque. Et le lien entre les deux est probablement à chercher dans le matériau de composition, donc le bronze, puisqu'on trouve le même terme pour décrire des cymbales, percussion et pas aérophone, pour découvrir le gond des portes qui grincent en faisant un bruit rauque, ou encore les boucliers que l'on heurte. Donc il y a un rapport pour les anciens entre son métallique et raucité. Rauquitas. Bon. Il n'y a pas que les instruments de musique qui sont qualifiés de rauque, la voix et la voix humaine, la voix de manière générale, pardon, humaine, animale ou divine, est de loin pour le coup l'objet qui est caractérisé comme étant le plus rauque. La voix des hommes qui s'enrouent à force de parler, la voix de la plèbe, la voix de la femme de mauvaise vie, de la prostituée qui est rauque, la voix débile de l'individu qui est en train de, qui est proche de la mort, est une voix rauque, c'est la voix malade, c'est la voix qui est assimilée, qui est la voix d'une voix qui subit un processus de détérioration. C'est une voix donc qui a un défaut, et tous les individus, les hommes pardon, qui chez Ovide se transforment en animaux pour une raison ou pour une autre, ça arrive à tout un chacun, ont une voix qui est une voix rauque. L'adjectif est très souvent mis en rapport avec la nature. Les ours, les sangliers, les ânes, les chevaux, les éléphants, les taureaux émettent des sons rauques, ce que l'on peut assez, en tant que contemporain, comprendre. Mais on n'est plus dérouté quand on apprend que les cris d'oiseaux sont rauques, ou encore que la cymbalisation des cigales, moi c'est un truc, je fais pas la grenouille, je fais la cigale, c'est mon côté méditerranéen, ou encore le vrombissement des abeilles, qui sont qualifiées de raucus. Le vrombissement des abeilles est rauque. De même, l'eau, le bruit de l'eau. L'eau est rauque. Vous allez me dire, on part vraiment dans tous les sens. L'eau fuyante des rivières, l'eau mobile, l'eau qui est en, qui s'écoule contre les galets. Ça revient très régulièrement chez Virgile notamment. La marée sur les galets, c'est un bruit rauque, c'est une mer rauque. Le vin qui est en ébullition, c'est rauque aussi. Si on essaie de synthétiser, de voir... Qu'est-ce qu'on peut tenir? Est-ce qu'il y a une idée directrice? Est-ce que rauque, ça veut tout dire et rien dire, finalement? Il me semble qu'il y a une idée de sons qui sont des sons riches, des sons complexes, des sons constitués de ce que Leibniz appelait les petites perceptions inaperçues, tous ces petits fragments de sonorités qui, mis ensemble, forment un son complexe. Voilà ce que signifie rauque et voilà la manière dont les Romains voyaient les sons des instruments qu'étaient les cornois. Viennent ensuite, et j'irai beaucoup plus vite, d'autres catégories de termes. Stridulus, sonorus, gravis et acouté. Là, on peut se dire ça part dans tous les sens. Stridulus, strident, grave, aigu et qui fait du bruit. Bon. Alors, sonorus, 60 occurrences de sonorus, 28 servent à décrire des bruits de la nature. L'idée qui ressort, et je vous présente juste les résultats, croyez-moi sur parole ou posez-moi des questions après, sonorus désigne des bruits qui sont en rapport avec de l'écoulement. L'écoulement de l'eau, l'écoulement du vent, un mouvement. Ce qui est sonorus, c'est ce qui est le fruit d'un mouvement. C'est aussi ce qui ressort de la guerre. Quand il y a des sons de combat, des sons donc mis en avant par le bruit des armes qui s'entrechoquent ou par le mouvement des hommes sur le champ de bataille, c'est le qualificatif sonorus qui revient. Stridulus est un terme que l'on ne rencontre qu'à deux reprises, mais qui est lui aussi relativement intéressant, deux reprises en rapport avec les cornois, 17 en tout dans la littérature romaine, et l'on a là un terme qui n'est jamais en rapport avec la voix humaine, jamais, mais qui décrit des mouvements ondulatoires. C'est, par exemple, le bruit de la pique qui est lancée, de la lance qui va dans l'air et qui ondule jusqu'à atteindre son objectif, ou de la flèche qui est lancée dans les airs, qui elle aussi ondule avant d'arriver et de se planter. La baliste émet un son stridulus, et donc en rapport avec un phénomène ondulatoire. Dans ces qualificatifs, ces adjectifs de sonorité, il y a donc une description qui est relativement naturaliste. On a des adjectifs de qualité sonore qui montrent la complexité du son, le fait que le son soit le fruit d'un écoulement, et d'un écoulement en rapport avec une ondulation. Je ne suis pas du tout acousticien, mais il me semble qu'on n'est pas si loin de la réalité, en tout cas de production du son. Je vais me faire dézinguer après, mais ce n'est pas grave. Alors, on pourrait avoir un étonnement, et je termine, rassurez-vous par là, du fait qu'il n'y a finalement pas grand rapport avec la signification sociale. Ces instruments de la puissance, ceux qui incarnent le pouvoir, on n'en a aucune trace dans les adjectifs de sonorité. On les retrouve, en revanche, dans les adjectifs de qualité. Le cornou est sauvage, seus, minax, menaçant, terribilis, terrible. On retrouve l'idée qu'il y a une frayeur, l'appareil d'État est terrifiant, c'est bourdieusien tout ça, en diable. Et dans les termes qui servent à désigner les sons, l'identité, la production sonore qui est faite par le cornou, on retrouve cette dimension de terreur ou de richesse. La fragor ou la clangor, par exemple. Fragor, ça dérive du latin frangere, du verbe frangere, et ça signifie rompre, casser. Le son qui émet une fragor, c'est un son qui casse l'environnement, qui est disruptif, qui introduit une rupture brutale, immédiate dans l'environnement qui est le sien. Un son qui rompt la normalité. Je m'arrête là pour l'étude lexicographique qui est encore en cours, hein, qui sera publiée dans l'ouvrage collectif que l'on fait sur les cornois de Pompéi. Des sonorités qui sont des sonorités des instruments du commandement, connus pour leur effet et qui suggèrent, semble-t-il, derrière les descriptions naturalistes du son, la puissance et l'effroi. Je vous remercie pour votre patience. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Une question, en attendant le changement d'intervenant, des remarques.
Puisque tu interpelles les Spartiates, c'est intéressant quand même que la conception d'Olugel qui va complètement à rebours de la conception des Grecs, parce que pour eux, l'Olos, c'est justement ce qui donne le courage à la guerre et suscite l'excitation.
Mais l'autre citation reprend l'idée que ça n'est pas pour... qu'il y a bien une excitation et qui est bien plus proche, effectivement, de la réalité grecque. Quintilien, lui, s'enflammait aux accents de la musique.
Oui, oui, tout
donc,
à fait. Mais ouais. C'est intéressant qu'Olugel, citant Thucydide,
oui.
détourne Thucydide finalement d'une certaine manière, absolument. Alors que les textes grecs sont très clairs sur le sujet.
Tout à fait.
Oui, par rapport à l'étude donc du vocabulaire sur les sons, en fait, je pense que de nos jours, on en est un peu, il me semble, au même problème. En fait, il y a des personnes qui travaillent là-dessus, sur les sons de piano, les sons de... Il y a des spécialistes de ce domaine, et ça serait peut-être intéressant de se rapprocher un peu d'eux, qui font des classifications, des termes. Enfin, il y a toutes des techniques.
Oui, absolument. Du moment que pour notre côté, on part bien des anciens, ça pourrait être tout à fait intéressant de comparer avec les perceptions contemporaines à titre de comparaison, de comparatisme.
On voit bien quel point le vocabulaire vous aide pas,
Faut pas dire ça, faut pas partir perdant comme ça. Et il faut trouver, il faut chercher. Il se donne pas comme évident.
Tu as bien montré que les termes ont tellement une fonction générique. Clangor, c'est le cri de la grue. En même temps, c'est le son de la trompette. Donc finalement, sur la hauteur du son,
à mon avis, si ça peut
n'est pas très précis.
Si ça peut nous aider d'une quelconque manière, c'est effectivement pas moins pour chercher des hauteurs que pour chercher des impressions ou des ressentis.
Voilà, c'est
alors,
plus ça.
On a toujours le problème après de la nature des textes. Quand on est dans des textes poétiques, est-ce que c'est juste pour la beauté de la langue, pour la métrique? Est-ce que c'est parce que ça correspond à une réalité?
Mais alors, est-ce que Végès, dans son traité militaire, donne des éléments? Je crois pas.
Non.
Ah, oui.
D'accord. Végès, non.
Donc ça veut dire que finalement, ce sont que des textes littéraires.
Lui, c'est vraiment sur les signes, c'est la transcription, c'est les communications, les signes qui sont donnés, mais la nature même.
Donc on choisit des adjectifs et...
Alors, est-ce qu'il faut renoncer à les étudier? Je ne sais pas, mais en tout cas, avec une prudence extrême, ça c'est certain.
Non, sans doute pas, c'est intéressant.
Merci.
Oui, on a cité Berlioz tout à l'heure. En fait, ça serait intéressant que tu regardes le traité d'instrumentation de Berlioz, où il décrit les sons des instruments, justement, avec des termes comme ça, en fait. Mm-hmm. Voir comment les compositeurs, Berlioz, Rimsky-Korsakov aussi, en fait, qui a écrit des traités, et où justement, ils décrivent le trombone, la trompette...
Pardon, je reprends. Je pensais, tu me fais penser à quelque chose. Je transmets tout de suite le micro. Justement, Miklos Rosa, lui, il qualifie le son des trompettes de brillant. Voilà, le genre d'adjectif qui peut-être évoquera pas grand-chose pour nous, mais pour les compositeurs, pour les musiciens, c'est... Donc c'est intéressant ce que tu dis, de comparer le vocabulaire contemporain et voir avec la lexicographie antique.
Oui, moi je te remercie beaucoup de montrer l'absolue nécessité de plonger dans les textes des anciens pour percevoir, enfin se mettre dans un contexte, même si, comme on le voit, ça peut éventuellement partir dans tous les sens à première vue, mais néanmoins, pas tant que ça, et puis il y a des choses qui vont s'éclairer plus tard, très certainement, et voilà, et ça permet vraiment... De parler de son et pas de musique, d'être dans un univers sonore, et ça tu l'as montré avec la brillance des cornouailles, etc., dans des perceptions sensorielles. Et là, moi, je crois que c'est vraiment un thème qui porte le nom savant de synesthésie maintenant, et les projets qui se montent autour de tout ça, en plus du son, tout ce qu'il y a autour des perceptions visuelles, touches, etc., cet univers-là qui est un sujet d'anthropologie absolument passionnant et qui est absolument balbutiant pour certaines disciplines. Enfin, en tout cas, en égyptologie, ça l'est. Je ne sais pas pour les autres, vous autres.
C'est en cours de naissance, en constitution et en plein dedans. Là, c'est,
voilà, où là, il y a vraiment un pan de recherche, à mon avis, extraordinaire à exploiter. Donc voilà, je te remercie parce que ça montre bien que ça vaut la peine de plonger là-dedans. Je reviens. Bon.
D'ailleurs, j'en profite, c'est pas une question de lacédémonien, c'est une question de béotien. Pour le classicum, qu'est-ce qu'on sait exactement, notamment quelle est l'étymologie du terme
elle est, les anciens eux-mêmes, Varron nous la présente de manière tout à fait foireuse, qu'il se retourne dans sa tombe, le pauvre. Et il fait dériver ça de classis, et donc met ça en rapport avec, avec les constitutions des catégories de citoyens, des classes, et non pas avec la flotte. Non, pas avec la flotte. Non. Mais c'est très...
Et le terme apparaît beaucoup dans la littérature.
Combien d'occurrences qu'il y a, je ne serais pas capable de te dire, mais peut-être une vingtaine ou une trentaine d'occurrences. Ce n'est pas non plus le terme le plus répandu qui soit, mais ce n'est pas un apax. Hein, c'est assez, assez répandu. En diverses circonstances, beaucoup dans le cadre militaire, et puis aussi, essentiellement à travers Varron, en contexte civil.
Et les sources en question, ils décrivent de quoi il s'agit.
Bien sûr que non, ce serait trop facile.
Oui.
Non,
bon, je pose la question. Hein.
Non.
Voilà.
Non. La seule hypothèse, le seul croisement qu'on puisse faire avec, éventuellement, c'est avec le minuscule vers d'Ennius. Alors, la tuba fait taratantara. Est-ce que ce serait le taratantara, le classicum? On peut le dire, ça fait de mal à personne. René? Je te cède la parole pour terminer le dossier pompéien et cornois, et puis après on terminera la journée avec la perspective de travail sur les Gaulois et sur l'acoustique avec Joël.
Alors, pardon, je peux débrancher là. Je vais y arriver, hein. Il faut un petit réglage. Alors, disposition, recopie vidéo, voilà. Voilà, c'est parti.
C'est bon ?
Oui. Je regarde là, oui. Donc, le titre, c'est « Archéométrie et restitution sonore numérique des cornuas de Pompéi ». Donc, il devait y avoir Benoît Mille, qui est un spécialiste de l'archéométrie. Donc, il n'a pas pu venir pour des raisons... bien sérieuse. Il est en train de terminer, de rédiger sa thèse. Et donc, Alexandre m'a demandé de présenter un peu ses résultats aussi. Donc, vous verrez, je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais bon, j'essaierai quand même de reporter un peu tout ce qui a été fait. Bon, je voulais dire que c'est aussi ce travail, c'est un travail d'équipe à quatre. Il y a eu des échanges énormes et ce n'est pas parce qu'on est spécialiste des matériaux qu'on n'a pas son mot à dire sur l'acoustique ou sur les textes antiques ou autres. Voilà. Ce monsieur qui est représenté là, s'il mesure 1m70, le corps nu, il fait 2m99. Et si ce monsieur mesure 1m90, le corps nu, il fait 3m40, en fait. Hein, voilà, je dis ça parce qu'on va pas mal discuter de la longueur des corps nus. Et la longueur, évidemment, détermine les notes qu'on va émettre.
3m40 pour la longueur du tuyau déroulé.
Oui, tout à fait. Hein, bon, les partenaires... On les connaît. L'apport de l'IRCAM, c'était le côté acoustique et aussi l'idée de faire un facsimilé numérique, en fait, parce que ces instruments, on ne peut pas les jouer. Donc, est-ce que le numérique, on peut faire des sons et voir comment ça sonnait? Le C2RMF, donc, c'est l'archéométallurgie. On verra ce qu'on a rencontré à Naples quand on y est allé et les mesures réalisées qu'on a pu faire, en fait. Hein. On a pu faire toutes les analyses qu'on aurait souhaitées, évidemment. Je fais un plan un peu historique. Donc, les premières analyses, qu'est-ce qu'on en a tiré, en fait ? Après, on a découvert, enfin, on le savait un peu, qu'un monsieur à Bruxelles, qui était à la fois fabricant de facteurs d'instruments et conservateur, tout ça, connaissait bien les instruments et qu'il avait fait des facsimilés parce qu'il s'était rendu à Pompéi, hein, et il avait vu certains des instruments. Donc on fera des analyses complémentaires, qu'est-ce qu'on tire des facsimilés, et puis en tirer quelques résultats qui ne sont pas définitifs. Je parlerai aussi des copies virtuelles, évidemment, et une petite conclusion et les perspectives, parce qu'évidemment ce n'est jamais terminé. Alors, avant, je suis désolé Joël, je pensais que tu passerais avant moi, que tu expliquerais comment un cuivre fonctionne, parce que tu le fais certainement mieux puisque tu es en même temps un très bon tromboniste. Mais bon, grosso modo, en fait, le son émis par un instrument avant, ce n'est pas l'amplification du son des lèvres. Hein, on peut émettre des lèvres, le buzz, enfin, Joël le fera mieux que moi. Et ce son, on peut l'amplifier, par exemple, avec un mégaphone. Hein, le mégaphone, au lieu d'avoir un son qui serait parti partout, va être guidé. Et ce son donc est amplifié. Mais en fait, les cuivres ne fonctionnent pas tout à fait comme ça. Alors, en fait, c'est un couplage entre la vibration des lèvres et l'onde qui se propage dans l'instrument, qui réfléchit, et qui fait qu'on a un son vraiment très particulier, très riche, caractéristique de ces instruments. Je vais très vite. Donc on appelle ça l'effet valve, c'est-à-dire la vibration des lèvres. Peut-être que tu montreras un film tout à l'heure, vous verrez comment vibrent les lèvres, mais on peut, avec des embouchures en plexiglas, visualiser la vibration des lèvres et voir comment ça se comporte, en fait. Aujourd'hui on le fait avec des caméras rapides, évidemment, il y a toutes sortes d'études qui se font autour de ça. Alors grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que la fréquence de jeu, la fréquence de la note qui va être émise dépend de la fréquence du résonateur, le résonateur, l'instrument. Donc quel doigté on va choisir, quelle longueur par exemple, mais aussi c'est lié à la vibration des lèvres, à la fréquence des vibrations des lèvres. Donc c'est un ensemble. Et si je branche le son, oui, et j'ai pas fait un essai, mais alors, ça devrait marcher. Pas de chance, l'adaptateur ne fonctionne pas. C'est bizarre, c'est standard, plus ou moins, non ? Bon. Mais je vais le jouer comme ça, on devrait entendre quelque chose. Alors, pardon, voilà. Là, vous avez c'est un trombone, un tromboniste qui joue. Donc, pour une position de l'instrument, le musicien avec ses lèvres va changer la vibration de ses lèvres de telle sorte à faire sortir toutes les notes que sur cette position il peut obtenir. Donc, on a ce qu'on appelle une série plus ou moins harmonique, en fait. Hein. Alors, série harmonique, bon là c'était un si bémol, mais c'est par exemple, j'en ai représenté une, do, sol, do, mi, sol, si bémol, do, ré, mi, fa, dièse, sol. Hein. C'est généralement ce qu'on peut obtenir avec des formes simples d'instruments, par exemple un tuyau cylindrique. On aurait la série, non pas entière, mais impaire, on aurait 1, 3, 5, 7. Ou un instrument parfaitement conique. On aurait toute la série, mais évidemment, vous le savez tous, que généralement, en fait, ces formes simples, elles ne suffisent pas, et pour que les lèvres vibrent bien, donc on va ajouter une embouchure, hein, le cône entier, on va le couper, évidemment, ça ne sera plus un cône entier, et puis généralement, on va mettre un pavillon pour que ça sonne mieux. Je pense que Joël, tu feras certainement une démonstration, tu illustreras ça tout à l'heure. Donc, ajout du pavillon et de l'embouchure qui modifie évidemment un petit peu cette série. Et On a parlé tout à l'heure de la relation de quinte avec la corde. Hein. Je pense que ces instruments, dès le début, en fait, ont cherché une certaine relation, où on a rencontré une certaine relation harmonique entre les sons qu'on pouvait émettre. Même si on le verra, les corps nus, parfois, ne sont pas très, très justes. Alors, il y a des instruments où on n'a pas cette relation harmonique, c'est le didgeridoo. Le didgeridoo, c'est un morceau de bois, il y a des termites qui sont rentrés à l'intérieur, puis il y a l'homme qui est passé, qui a débouché, et en fait, si vous regardez comment c'est à l'intérieur, c'est n'importe quoi. En fait, j'avais fait une vidéo, mais je n'ai pas le temps de vous la montrer. C'est des formes vraiment très très bizarres qui font que les résonances de l'instrument ne sont plus en relation harmonique. Et évidemment, quand on joue du didgeridoo, on ne recherche pas cette relation. Et le didgeridoo, généralement, ça peut donner ça, en fait. Bon, je m'arrête. En fait, on ne peut pas obtenir ces résonances. On en obtient une, deux, trois qui ne sont pas forcément en relation harmonique. Donc, le musicien, il a inventé tout à fait une autre musique. C'est-à-dire qu'il utilise pas mal son conduit vocal, il chante, il pousse des cris. Enfin, hein, il y a toute une musique qui s'est développée, mais qu'il y a de fortes chances qu'on ne la retrouve pas chez les cornuas. Alors, cette harmonicité, en fait, que l'on va trouver au niveau des résonances de l'instrument, c'est très très important pour le jeu. C'est-à-dire que ça sera beaucoup plus facile pour un instrumentiste de jouer quand les résonances seront en relation harmonique. Et pour le jeu, donc la réponse de l'instrument, mais aussi la qualité du son, le timbre. Et le timbre sera beaucoup plus riche, évidemment, quand ces relations seront harmoniques. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du didgeridoo. Le didgeridoo n'est pas très riche du point de vue de la sonorité, n'est pas très puissant du niveau du son. C'est pas comme les cuivres, en fait. C'est une des conséquences de l'inharmonicité, on pourrait dire, des résonances. Alors, oui, donc on est allé à Naples, on a vu des cornuas, c'est vrai, on les a pas. Si, on les a présentés quand même, Christophe, je crois que. Alexandre, je ne me rappelle plus, c'était des morceaux qui étaient enfilés sur un tube en plexiglas, donc il y avait des vides, et donc on a fait des relevés morphométriques, mais bon, il y avait des vides, de temps en temps, il y avait un espace comme ça, on a supposé que cet espace de vide correspondait à quelque chose, que cette reconstitution correspondait à quelque chose. Mais il y avait un vide comme ça, pourquoi il n'aurait pas été comme ça? Pourquoi il n'aurait pas été comme ça? Donc on s'est dit, ben, on prend ça comme on le mesure et on voit ce que ça donne. C'est-à-dire à partir des relevés, on a pu calculer les résonances de l'instrument et en déduire un peu les notes qui pourraient être jouées. Alors pour cela, on utilise un logiciel de CAO qui s'appelle Résonance, qui a été développé il y a fort longtemps par les collègues du Mans et de l'IRCAM. Et je vous ai montré ici, voilà ce qu'on obtient sur ce logiciel, c'est-à-dire qu'ayant une forme géométrique donnée, on a des résonances en fonction de la fréquence. Vous avez ici ce qu'on appelle l'impédance, en fait. Vous voyez que ces résonances, elles sont discrètes, elles sont à certaines fréquences, et ces fréquences, si elles correspondent à des notes de une série plus ou moins harmonique, en fait, ben, en fait, on va pouvoir faire ressortir ces différentes notes, en fait. Et donc, la connaissance de ces résonances nous a permis de dire, ben, voilà, le cornu, il peut émettre telle ou telle note, et également de déterminer le diapason. C'est-à-dire, le diapason, c'est une référence. Aujourd'hui, le La, par exemple, est à 440 Hz, et on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça donne. Donc, on va raisonner beaucoup sur ce logiciel résonance, en fait. Et à partir de ce logiciel, on va calculer quelque chose qu'on appelle le ton fondamental équivalent, c'est-à-dire on va voir si la fréquence de toutes ces résonances sont en relation harmonique, en fait. Et alors, je vais peut-être me lever. Donc, on calcule ce ton fondamental équivalent.
Excusez-moi.
Pour toutes les fréquences des modes. Pour toutes les fréquences des modes, ici. Et si ces fréquences sont en relation harmonique, en fait, on devrait les retrouver toutes sur une droite. Hein. On voit que la première, vraiment, est très écartée. C'est mesuré en cinte, en unité de mesure, c'est-à-dire
Bon, je n'ai pas trop le temps de l'expliquer, mais grosso modo, un demi-ton, c'est 100 cents à peu près. Hein. Oui, c'est plus qu'à peu près, en fait, c'est 100 cents. Et on voit que, par exemple, ces résonances-là, ici, sont bien sur une droite, sont en relation harmonique. Et ça signifiera que l'instrumentiste, ces notes, il devrait pouvoir les émettre facilement avec un spectre, un timbre très riche, en fait. Alors que là, il va essayer de les mettre, il y arrivera, parce qu'il peut modifier un peu la fréquence de ses lèvres, mais ça sera de plus en plus difficile. Et là, vraiment, il n'y arrivera pas, c'est-à-dire que là, ça sera le son de ses lèvres, en fait, qui sera un peu amplifié par l'instrument, mais ça ne sera pas un véritable couplage. Et donc, généralement, là, on n'aura pas un son de qualité, et on aura, par exemple, du bruit aussi qui se mélangera dans le son. Alors, l'apport du C2RMF, voici Benoît et Margot qui avaient fait un stage pendant 6 mois sur ce sujet. Donc, on a eu de la chance de pouvoir récupérer quelques petits éléments en fait, de cornua qui traînaient un peu à côté ou qui sont tombés comme ça en soufflant. Pfft, hein. Donc quelques éléments ont permis à Benoît et Margot de faire des analyses. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Alors oui, il y a des parties qui sont en anglais. Là, j'ai pas eu le temps de les traduire parce que c'est Benoît qui m'a envoyé ça. On voit que quand on fait des analyses avec la méthode PIX, ça veut dire Particle Induced X-ray Emission. Bon, on fait ça avec un accélérateur de particules, et justement au C2RMF, ils ont un accélérateur de particules qui permet de faire ça. Et on voit que principalement, en fait, ces instruments sont faits en alliage de cuivre et d'étain. C'est un bronze binaire, en fait. Et grosso modo, bon, il y a 95% de cuivre, 5% de... Pardon, d'étain, enfin 0,45% on dira, et 0,5% d'impureté. Et c'est ce qu'on voit ici, en fait. Ça, ce sont les différents éléments qu'on a trouvés, les petits morceaux de cornua. Et ici, étonnamment, on voit quelque chose qui est grosso modo de, non pas de l'étain, mais un alliage de laiton. Et on verra tout à l'heure, il y a une pièce qui est en laiton. On ne sait pas pourquoi elle est en laiton. Peut-être que vous aurez une idée. Et en fait, ici, c'est la même échelle qu'ici. On voit que ça représente tous les composants qui sont là, le plomb, l'argent. On voit que ça, ce sont des impuretés, en fait. Et pratiquement tous les éléments ont la même impureté, en fait. Grosso modo, enfin, je vais un peu vite, mais on peut dire que certainement tous ces instruments ont été faits au même endroit. Peut-être dans le même atelier et que donc ils avaient la même composition. Et malheureusement pour nous, cette analyse ne nous permettra pas de dire, par exemple, tiens, cet élément, il est mal placé, il devrait aller avec cet autre instrument. Ça, malheureusement, ça, c'était un échec de ce côté-là, mais c'était comme ça. Alors, il y a d'autres analyses qui ont été faites, et on peut voir ici au microscope qu'il y a, on le voit là sur une coupe, il y a des enrichissements en fait en fer et en sélénium. Hein, et ça traduit certainement ce qui s'est passé au niveau de l'atelier. Et pareil, si on voit différents composants, en fait, je rentrerai pas trop dans le détail. Enfin, un autre type d'analyse, c'est une analyse chimique, en fait, qui permet de rentrer en quelque sorte à l'intérieur de l'instrument, d'aller plus loin et de voir comment ont été formées ces plaques de bronze qui ont servi à construire ces instruments. En fait, grosso modo, on voit que ça a été fait par martelage à froid et par un ensemble de phases où on a une déformation plastique et un recuit, en fait. Ce sont les mêmes techniques que l'on utilise aujourd'hui, par exemple, pour les cymbales. Si vous vous intéressez aux cymbales modernes, si vous regardez sur Internet, vous trouverez des films qui montrent comment c'est fait. Donc, les cymbales passent par le four, et après on les martèle avec une technique vraiment très particulière. On les reprend, ça passe dans le four, on les martèle 13-14 fois. En fait, c'est vraiment très, très particulier.
Donc on suppose, oui, enfin on suppose, mais on a remarqué que l'épaisseur donc des plaques était à peu près identique pour chaque cornu. Et on suppose, parce qu'on ne le sait pas, les écrits ne le disent pas en fait.
Oui, d'accord.
Que peut-être on achetait des plaques de bronze ou on fabriquait des plaques de bronze et on découpait ensuite ces plaques. Alors, comment étaient réalisés les instruments ? Ben, on prenait une plaque évidemment beaucoup plus longue et on rassemblait les bords comme ça. Et au niveau de la jonction, en fait, ce qu'on peut voir ici, ça représente la jonction, et ça, ce sont les deux parties de l'instrument. Et quand on fait des analyses, on voit qu'au niveau de la jonction, il y a des composants en zinc, en oxygène, et on ne sait pas quoi en tirer. On se dit que peut-être il y avait une technique particulière de brasure, hein, qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, ça, c'est encore, on n'a pas suffisamment d'éléments pour en déduire, aller plus loin. Alors, pour aller plus vite quand même, après, il y avait les techniques de connexion entre les tubes et principalement, on voit ça sur une photo ici, c'était de l'emboîture. Hein. Alors, par exemple, pour Neuville en Sulas, la trompe de Neuville en Sulas, c'était plutôt des manchons qu'on utilisait. Voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé à Naples ? Alors voilà nos fameux cornus. Vous voyez en blanc, c'est les parties vides. Il y avait beaucoup de bides quand même. Hein. Alors il y a deux numérotations des cornus, la numérotation officielle et puis celle de l'étude. Donc j'ai mis les deux là pour mes collègues pour qu'ils s'y retrouvent. Voilà une autre cornue, voilà une troisième. Il y en avait cinq en fait. Donc et également ce qu'on a trouvé, des embouchures. Mais elles n'étaient pas montées sur les cornues, deux embouchures, cinq cornues, deux embouchures, dont on a fait un relevé ici. Elles sont légèrement différentes, en fait. Celle-ci était montée sur un tuyau et on n'a pas pu vraiment bien la mesurer. Donc c'est principalement celle-ci qu'on a utilisée pour les calculs. Et vous avez ici une photo de cette embouchure. Alors... Là, j'ai représenté une embouchure de trompette. En fait, grosso modo, ça ressemble à une embouchure de quelque chose d'intermédiaire entre trompette et trombone. Et pour caractériser les embouchures, généralement, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce qu'on choisit, c'est le grain. C'est la partie ici, là, le grain, ce qu'on appelle. Le diamètre à l'ouverture, le volume de la cuvette ici. Et puis, évidemment, éventuellement, la profondeur, la longueur. Donc, il y a plusieurs paramètres. Mais si on compare entre un trombone, trompette, cornu, et puis les cornus de maillon, on y reviendra, en fait... On s'aperçoit que c'est ni trompette ni trombone, en fait. Alors oui, j'ai parlé tout à l'heure de laiton, et en fait, l'instrument rentre dans l'embouchure. Généralement, c'est pour les cuivres, c'est l'embouchure qui rentre dans l'instrument. Pour les saxophones, c'est l'instrument qui rentre dans l'embouchure. Mais là, c'est donc l'instrument, qui est la fin de l'instrument. Ici, il y a une partie en laiton qui est là. Qui permet de réaliser cette jonction que vous voyez là. Pourquoi en laiton ? Point d'interrogation, on n'a pas de réponse. Peut-être que ça permettait vraiment bien de bloquer par rapport au bronze, ça c'est quelque chose. Voilà, donc là j'ai résumé rapidement les différentes longueurs des cornues, vous voyez 3,660 m, sans l'embouchure. Là, on n'a pas mis l'embouchure. La conicité aussi, il y a une conicité, on peut arriver à déterminer une conicité, même si elle n'est pas constante, les différents diamètres et les épaisseurs en fait. On voit qu'en particulier pour les épaisseurs, il y a quand même des différences. Et on voit par exemple que les personnes qui ont réalisé des copies, maillons, n'a pas été capable, ou je ne sais pas qu'il n'a pas été capable, on ne sait pas très bien, mais peut-être il n'a pas pu réaliser des cornues beaucoup plus légères, en fait. Ça pèse deux fois plus que les cornues de Naples, en fait, puisque là, l'épaisseur, ça peut être 0,50, 0,30, et là, c'est 1,1, en fait. Alors, donc,
Voilà ce qu'on en tire au niveau des mesures. En fait, je suis allé un peu trop vite, mais ça, c'est la cornue numéro 2. Et donc, ça, c'est les points de mesure, vous voyez, tous les différents points de mesure que l'on a fait. Et à partir de ces points de mesure, donc, on en tire une conicité. Et puis, vous avez le pavillon au bout. Si on fait un agrandissement ici, on s'aperçoit qu'à un moment, il y a une discontinuité. Donc, ça voulait peut-être dire, comme il y avait des parties qui manquaient, que le cornu, en fait, il continuait comme ça, et il était peut-être plus long. On va voir quelles en sont les conséquences. Donc je reviens sur ma courbe d'impédance, c'est-à-dire à partir des données géométriques, donc, on calcule l'impédance, et donc on a les résonances. Et voici les fréquences des résonances donc, de ce cornu numéro 2, de ce qu'on a mesuré. Et voilà, vous avez toutes les fréquences, je ne sais pas si ça vous dit, mais grosso modo, là vous avez les notes que cela pourrait être, et là en dessous c'est l'écart par rapport à ces notes. On voit qu'il y a par exemple la dièse, il est très juste, et donc on aurait une série harmonique sur un ré dièse, ré, ré, la, ré, sol, la, do, ré, fa, sol, etc. Et on voit que ça c'est juste, parfaitement juste, ça c'est un peu écarté, ça va à peu près, ici ça va à peu près, bon là c'est pas très bien, et là c'est assez catastrophique en fait. Et alors oui, pardon, j'aurais dû le présenter ça au début. À cette représentation en fréquence, on peut associer des représentations le long des nœuds et des ventres à l'intérieur des instruments. Généralement, quand on décrit des instruments, on dit il y a des nœuds, il y a des ventres. Et là, j'ai représenté sur la longueur de l'instrument les deux modes, le premier et le cinquième ici, où vous avez ici au niveau de l'embouchure et ici au niveau du pavillon, par exemple, la pression qui est maximale au niveau de l'embouchure et qui décroît. Et ça, c'est le mode 5 où vous avez ici 3, 4, 5, en fait, qui représentent les nœuds et les ventres le long de l'instrument. Et ça c'est équivalent à ça, en fait. Donc, on voit que notre cornu, quand même, n'est pas très, très juste. Et oui, alors, pardon, j'aurais dû peut-être le montrer. Oui, vous voyez, il y a une certaine conicité ici, et la conicité, elle n'est pas constante, en particulier si on rajoute l'embouchure, enfin, il y a des éléments vraiment très compliqués. Donc on peut se dire, peut-être, mais ce qu'on a choisi, ce n'est pas tout à fait correct, donc on va trouver une autre solution, et on a cherché une autre approximation, je veux dire, de la forme. Et voilà ce que ça donne au niveau toujours pareil de notre ton fondamental équivalent. On voit que ça a à peu près le même comportement. Ça améliore en fait de choisir une autre conicité, mais ça a toujours le même comportement. Alors maintenant, on part à Bruxelles. Enfin, Christophe part à Bruxelles, puis et avec Benoît, on a l'occasion d'y aller. Alors, l'avantage des cornuas de Maillon par rapport à ceux de Naples, c'est qu'ils sont entiers. Il a fait une copie. Donc, s'il a fait une copie, on peut à la fois mesurer sa géométrie. Il n'y a plus de trou blanc, il n'y a plus de vide. Et en même temps, on peut mesurer directement son impédance. On n'a pas besoin de la calculer. On a des dispositifs qui permettent, qui se branchent à l'embouchure de l'instrument, qui envoient un signal et on trace cette fameuse courbe que vous avez vue d'impédance et on a tout de suite les résonances. Donc, en même temps, à partir du moment où on mesure et à partir du moment où on fait un relevé morphométrique et où on calcule, ça permet aussi de valider nos modèles, de valider aussi nos mesures. Est-ce qu'à un moment, on ne s'est pas trompé ? Et en fait, on s'aperçoit que ça marche très, très bien. Enfin, on va le voir. Et enfin, ça, c'est, on doit remercier Géry Dumoulin, qui est le conservateur à Bruxelles, du MIM, qui a accepté, pour Christophe, de jouer quelques notes. Alors que la plupart du temps, dans les musées, et par exemple à Paris, on nous a dit non, 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 surtout on ne souffle pas dans l'instrument. Mais lui, très gentiment, a accepté d'enregistrer quelques notes. Et en plus, comme c'est un trompettiste aguerri, bon, je pense qu'on peut faire confiance à ce qu'il a fait. Et, ça, c'était quand même assez remarquable pour nous, en fait. Alors, là, j'ai comparé les fréquences de résonance des trois copies. Donc, il y avait deux copies à Bruxelles et une copie à Paris. Et on s'aperçoit Paris, donc Bruxelles. La première fréquence, là, elle est pas bonne dans le sens où on est en très basse fréquence. Et quand il y a des climatisations comme ça, en fait, ça perturbe, hein, quand vous entendez ce bruit. En basse fréquence, vous avez du bruit, vous n'arrivez pas à mesurer. Donc ça, on ne va pas le regarder. Mais si on regarde les autres, hein, 82 Hz, 81,9, 82,8, si on regarde ici 531, 534, 532, en fait, on voit que ces copies sont parfaitement identiques. En fait. Les copies de Maillon à quelques détails près. Et puis quand on fait ces mesures, il faut contrôler aussi la température, ce qu'on n'a pas fait. Bon. Donc on voit que c'est vraiment des copies parfaitement identiques. Alors là, ici, on a validé nos modèles. Voilà ce qu'on mesure et voilà ce qu'on calcule. Et on s'aperçoit que, par exemple, ici, 288, 285, 385, 387, on voit que nos modèles obtenus à partir des relevés morphométriques fonctionnent très, très bien. Donc, on peut continuer. Alors, on a fait un enregistrement et j'en ai mis un extrait ici. Malheureusement, on ne pourra pas très bien l'entendre. Et ce que j'ai représenté ici, c'est la forme d'onde. C'est-à-dire, si on a un microphone en sortie, vous avez une onde comme ça. Et cette onde, on peut l'analyser en fréquence, ce que l'on voit ici à l'aide d'une représentation, ce qu'on appelle temps, ici, le temps fréquence. On appelle ça un sonagramme. Et en fait, ici, vous avez les composantes du son. Ça, c'est la première harmonique du son, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et le musicien, grosso modo, a joué ré, ré, sol, ré, si, sol, ré, ré, sol, ré, sol, si, ré, fa, sol, etc. Alors, je vais le jouer. Malheureusement, on ne l'entendra pas très bien. Voilà. Etc. Hein, bon, je... hein, bon, je pense que à l'époque des Romains, ça sonnait comme ça. Alors, est-ce que le son est... Qu'est-ce que tu dis, raucus, c'est ça? Hein, et en fait, ça, on a vraiment eu une chance d'avoir ça. Alors, en fait, si on analyse un peu plus les sons, on s'aperçoit... Pardon, j'ai perdu ma souris. Ouais, hop, non. On s'aperçoit que les premiers, ici, si on regarde en détail, bon, ça, normalement, il faut être un peu connaisseur. Les sons sont très propres, riches, en fait, vraiment très propres. Quand il arrive ici, il a des difficultés parce que, comme j'ai montré ici, pardon, tout à l'heure, là, on n'est plus dans la verticale et donc on n'est plus en relation harmonique et l'instrument ne fonctionne pas bien. Donc, en fait, si on analyse ces sons ici, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bruit. En fait, le musicien, les lèvres du musicien ne sont pas bien contrôlées par les résonances du tuyau et donc il y a beaucoup plus de bruit dans le son. Enfin, le son est de moins bonne qualité, en fait. Analyse complémentaire, et c'est là où intervient le fond de Maillon. Oui, je ne sais plus, on n'en a peut-être pas parlé. Hein, il y a quelqu'un qui a écrit, Jean de Lozière, c'est ça, qui a écrit en 1884, 5, 6, quelque chose par là, qu'il avait vu le sous-directeur des fouilles et qu'il avait vu trois magnifiques trompettes de bronze en forme de cercle, trompettes de gladiateurs. Elles font 4,20 m de développement. Hein. Et... sur cette photo, en fait, avec Benoît Mille, ce que Benoît a remarqué, c'est que ce qu'on avait mesuré à Naples, en fait, ce qu'on avait remarqué, c'est que sur chaque cornue, ces parties-là, là, ces manchons en T qui permettent de mettre cette traverse en bois ici, hein, cette traverse, ces manchons-là sont identiques pour un cornu même. On a gravé des choses et c'est des formes particulières. Donc les manchons pour celle-là sont différents des manchons de celle-ci. Et malheureusement, à Naples, sur les cornuas qu'on a mesurés, les manchons sont mélangés en fait. Ce qui nous montre que il s'est passé quelque chose, ce que ça a été évoqué déjà, et en particulier, enfin, ce qu'on a vu, c'est qu'on injectait du plâtre, et évidemment le plâtre c'est pas terrible, donc à un moment on a dû se dire il faut enlever le plâtre, et enlevant le plâtre, si vous voulez essayer, faites ça chez vous, vous verrez que les instruments vont avoir d'énormes problèmes, il va y avoir des trous, des parties détruites et tout ça. Donc ça explique en partie pourquoi ces instruments, on les a retrouvés. Alors, cependant, comme nous, on avait bien mesuré ces parties ici, on les reconnaît quand on a grandi la photo, ce qu'on ne voit pas ici, on savait que ça faisait tant de millimètres, tant de centimètres, tout ça. On s'est dit, si on va calculer la longueur, puisqu'on connaît combien ça mesure ici. Et en fait, nous, on arrive ici à 3 mètres 31, enfin, on n'est pas à 5 mm près, avec une erreur de 35 mm sur la photo. Mais on n'arrive pas du tout à 4 mètres 20, en fait. Et je continue. Si on prend les écrits de Sogliano, en 1884, il dit que, grosso modo, j'aurais dû peut-être le traduire, que ici, ça fait un diamètre de 1 mètre 20, ça c'est ma reconstitution en fait, qu'à partir d'ici il y a 0,63 mm jusqu'au pavillon et ici il y a 0,70 jusqu'à l'embouchure et il dit que ça c'est le diamètre, donc si c'est le diamètre, voilà la moitié de la circonférence et on calcule et ça on arrive à ici 3,21 m. Par contre, si on veut avoir 4,12 m, voilà le cornu que ça ferait en fait, c'est un truc un peu difforme. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Est-ce qu'ils avaient peut-être un mètre qui n'était pas entier? Ça arrive. Il manquait peut-être quelques parties sur le mètre, je ne sais pas. En tout cas, les 4,20 m, on ne les a pas, en fait. On continue. En regardant toujours les photos, la photo que tu as montrée tout à l'heure, en fait, on s'est rendu compte que ce cornu là, qui avait été trouvé, qui est dans les archives à Bruxelles, qui est, je ne me rappelle plus quel est le photographe que tu as mentionné, en fait, il correspondait assez au cornu numéro 3 qu'on avait mesuré, nous, en fait, sans manche. Et donc on s'est dit, il ressemble à peu près à celui-là qu'on a trouvé, avec les vides, évidemment, on ne sait pas pourquoi il y a des vides et quelle dimension des vides. Et en fait, on s'est dit, pareil, on va analyser, on va calculer. Et en fait, on s'aperçoit, si on regarde les fréquences, que ça, ce sont les fréquences de la reconstitution de la photo. Ça, c'est le calcul de la cornue numéro 3. On voit que ça ne correspond pas très bien. Et puis on s'est dit, il y a des vides, d'accord, mais pourquoi il y a ces vides? En fait, on n'arrive pas à expliquer les diamètres ici, les diamètres là. On peut les accoupler aussi, peut-être que ces parties-là, on peut les retourner. Donc il y a pas mal d'interrogations. Et en fait, en changeant avec le logiciel, en enlevant les vides, en fait, on s'aperçoit qu'on se rapproche un peu plus des fréquences de résonance de la photo. Et on voit que c'est pas tout à fait pareil. Pourquoi? Parce que certainement j'ai enlevé des vides, mais peut-être que j'en ai enlevé trop ou pas assez. Donc là, il y a tout un travail encore que je dois faire. Voilà, et voilà les analyses. Et pour terminer, je suis dans les temps. Les copies virtuelles. Alors les copies virtuelles. Donc on a vu tout à l'heure les simulations. Donc à partir de la morphométrie, donc on peut calculer les résonances. Mais d'accord, on a des résonances et qui nous indiquent qu'on va pouvoir émettre un do, un ré, un mi, un fa. Mais on n'a pas de son. En fait, pour faire un son, donc il faut utiliser un autre logiciel, c'est une simulation pareil, mais la simulation doit sortir un son. Mais pour sortir un son de cornu, il faut qu'il y ait à l'entrée quelqu'un là. Et ce quelqu'un, c'est un musicien. Et généralement, je ne sais pas si vous avez essayé de souffler dans un trombone, si vous n'êtes pas tromboniste, vous avez des surprises en fait. C'est-à-dire que dans notre logiciel de synthèse sonore, il faut arriver à modéliser ce monsieur, à rentrer les bons paramètres. Et ça, ce n'est pas évident en fait. Et là, il y a encore tout un travail qu'on est en train de faire. Donc on a fait avec une méthode qu'on appelle les éléments finis, on a fait plusieurs cornues. Et voilà, par exemple, là c'est un vrai corps, c'est pas un corps nu, c'est un corps. Hein, c'est, et je vous le fais écouter. Hein, pardon, voilà, ça c'est un vrai corps, et voilà ce qu'on a fait avec notre logiciel. Vous voyez que c'est faux parce qu'en fait on n'a pas pris la bonne longueur encore, et puis il y a encore tous les paramètres qu'on doit régler. Donc on travaille là-dessus actuellement. Voilà, je vous remercie.
Merci René pour ta présentation et pour avoir accepté de te faire porte-voix de Benoît aussi et d'avoir fait la synthèse des deux. Merci vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour l'Assemblée?
De ce travail qui certes nous change l'essentiel de leurs sources habituelles.
C'est juste une remarque, alors je ne sais pas si ça apportera quoi que ce soit au débat, mais c'est par rapport à la pièce en laiton. Je sais qu'il y a une tibia, une paire donc, qui est en Slovénie, à Puetovio, et ils ont fait une analyse métallurgique, et il y a plusieurs couches de métal, une couche de laiton, une couche de bronze. Donc peut-être qu'il faudrait voir dans ce sens-là, je ne sais pas,
la
jonction du bronze et du laiton, peut-être. Des parallèles, visiblement.
Et là, pardon, j'ai peut-être pas insisté. Alors, oui, ça se trouve ici. Voilà, en fait, le tube de l'instrument en bronze, il va jusqu'au bout. Et sur ce tube, il y a cette petite partie-là en laiton qui est rajoutée, en fait. Et on l'aperçoit ici. Elle permet de bloquer, peut-être d'empêcher que l'instrument aille plus loin, peut-être.
Elle est forcément ancienne. Elle est forcément antique, ou elle aurait pu être ajoutée au 19e. C'était
oui, ancien. Oui, oui, oui.
On voit ces solidaires du tuyau.
Et oui, oui, oui. Et j'ai oublié de dire une chose, pardon, pour Maillon, en fait, il a fait des copies vraiment exactes du corps nu qu'il a vu, certainement le 3, en fait. Il a reproduit cette partie. Je pense qu'il aurait été capable de faire un instrument qui sonne mieux, enfin plus juste pour un musicien d'aujourd'hui, en fait. Mais non, je crois qu'il a fait une copie, il a pris les mesures et hop, il a fait la copie sans poser le problème de la justesse, en fait.
D'autres questions?
Oui, je voulais revenir. Tu évoques la justesse, René, qui est parfois sujette à caution. Et je me demandais, est-ce que c'est pas normal pour une trompette naturelle comme l'est le cornu, que la justesse soit relative dans les calculs? Il y a certaines phases où tu dis ça sonne moins bien, c'est pas très juste. Mais on sait que même aujourd'hui, les trompettistes baroques qui souffrent dans des trompettes naturelles, ils disent qu'ils rectifient la justesse avec l'embouchure, avec l'habitude. Et donc, oui, est-ce que c'est pas normal de trouver des anomalies de justesse dans la courbe, les calculs? Et est-ce que tu as pris comme paramètre aussi ce qu'évoquait Thierry Maniguet à la journée sur le son, c'est-à-dire l'idée que peut-être les instrumentistes ne faisait que des sauts de quinte, ta 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 ta, mais finalement il ne jouait pas toutes les notes.
Je peux pas le dire. Qu'est-ce que les instrumentistes faisaient?
Oui, ça,
effectivement, on voit qu'il y a certaines notes qui sont faciles à émettre, donc pour eux, s'ils voulaient pas être, je sais pas, passer zigouillé par l'empereur, il fallait qu'il joue juste. Donc, s'il jouait ses notes, à tous les coups, ça marchait. Les autres, ils pouvaient les jouer, mais c'était quand même beaucoup plus difficile, en fait. Hein. Donc, c'était risqué, en fait. C'est comme aujourd'hui, les instrumentistes avant, il y a parfois certaines notes qui sont vraiment risquées à émettre, en particulier les cornistes dans l'aigu, en fait. Donc, ça fait partie de l'instrument. Et je pense qu'un fabricant aujourd'hui pourrait dire, ah ben oui, je vois quel est le défaut, et pour faire un instrument plus juste, en particulier dans le grave, voilà ce que je pourrais faire. Mais il ne pourrait pas tout corriger. En fait, je crois que le gros problème vient de l'embouchure, en fait, qui n'est pas très, très bien adaptée. Elle est peut-être adaptée pour le musicien, parce que ses lèvres vibrent bien, mais pour la justesse, elle n'est pas correcte, en fait.
Et qu'est-ce qui lui manquerait à l'embouchure pour l'améliorer, d'après toi ?
C'est la forme. Grosso modo, en simplifiant, il y a un tronc, il y a un cône, mais ce cône, on le découpe là pour mettre l'embouchure. Et il y a toute une partie là qu'on enlève. Et grosso modo, si tu veux, ce volume ici qu'on enlève, il faudrait qu'on le retrouve au niveau de l'embouchure. Et ce n'est pas du tout le cas ici, en fait. Donc c'est toujours problématique pour les instruments, en fait. À part le cône, on est obligé de le couper pour mettre quelque chose, une hanche, une embouchure.
Merci.
Sur la question bronze-laiton, je crois qu'il ne faut pas non plus se focaliser outre mesure sur cette question-là. Parce que là, en fait, la tradition de la tôle de bronze, elle est millénaire. C'est quelque chose qui est maîtrisé. On a de la vaisselle en tôle de bronze dans toute l'Europe occidentale, des latitudes tempérées, même de l'Europe du Nord et du monde méditerranéen, un millénaire avant. Donc c'est quelque chose qui fait... C'est-à-dire que la nouveauté qui semble apparaître... alors, je sais pas, dans le monde celtique vers le deuxième ou quelque chose comme ça, c'est l'idée de faire un instrument de musique avec, de faire un instrument avant. Mais la tôle, on sait faire depuis très longtemps. Alors maintenant, la tôle de laiton, on a des objets en tôle de laiton dans la statuaire celtique, le dieu de Bourret, le sanglier de Soulac, ça c'est des laitons à 20% de zinc qui sont tout à fait classiques. La trompette de Neuvy-en-Sulas, si je me trompe, elle est en laiton, elle aussi. Hein? C'est ça, c'est les laitons, c'est les cuivres zinc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quasiment des choix de société. C'est-à-dire qu'on va continuer à faire des instruments de musique avec des cuivres éteints. Entre là, c'est 5% d'étain, ça pourrait être un peu plus. À Tintignac, dont on parlera probablement, c'est plutôt vers 10. Bon, ça, c'est le choix, le fait qu'il y ait une pièce en laiton qui arrive là-dedans, moi, ça ne me choque pas du tout. Parce qu'on connaît très mal, dans le monde italique de l'Antiquité, l'usage du laiton en dehors de la numismatique et de certains objets de parure. Parce qu'en fait, en Italie, sur le monde italique, il y a très peu de petits objets qui ont été analysés, dans lesquels les matériaux ont été déterminés. Hein. Et le laiton ne remplace absolument pas le bronze en général. Il prend des niches différentes, dans la parure en particulier. Dans les fibules, ça c'est clair. Et dans les monnaies aussi. Dans d'autres choses, je crois qu'on n'a pas assez de données pour le savoir.
On s'interrogeait aussi... Quel était ce rôle de cette partie qu'on rajoutait ? Est-ce que ça permettait d'avoir une meilleure connexion ? Est-ce que le laiton... Enfin, ça c'est moi qui m'interrogeais, peut-être que Benoît ne serait pas tout à fait d'accord là-dessus, mais est-ce que le laiton serait mieux que le bronze pour faire la jonction entre les deux, entre l'embouchure et le corps ? C'est... Voilà.
Non, je ne crois pas, parce que les propriétés mécaniques sont un petit peu différentes entre un laiton à 20% de zinc et un bronze à 4% d'étain. Bon, pour moi, ça me paraît plutôt quelque chose d'accidentel, vouloir lui donner une signification.
Ah non, on ne lui donne pas de signification, simplement, on s'interroge, on se dit, tiens, pourquoi on a rajouté ça, en fait.
C'est ce qu'on appelle une fourrure mécaniquement pour ajuster les pièces, où on va rajouter quelque chose, moi, que je sais désigner sous le nom d'une fourrure.
Et alors, on retrouve des fourrures sur les corps nus. Bon, on n'a pas eu le temps d'en parler pour au niveau des manchons hantés, tout ça. Mais ils ne sont pas en laiton, en fait. C'est, bon, voilà, c'est peut-être finalement rien du tout, mais c'était une interrogation.
L'usage du laiton dans le monde romain est, je crois, très, très mal connu. Hein. Et ça reste quelque... Parce que... Le monde, les Italiens d'aujourd'hui ne font quasiment pas, ils sont focalisés sur les grandes bronzes, sur des pièces, c'est toujours pareil, sur des objets beaucoup plus prestigieux, et on a beaucoup moins regardé les petits objets, quels sont les choix d'alliage sur les petits objets, quels sont les choix techniques, c'est objectivement mal connu. Ou alors, il faut passer par les collections des musées étrangers, du British Museum ou du musée américain. Ou alors là, de toute façon, on part aussi dans des objets sans provenance.
Merci pour ce
commentaire. Il y a du travail à faire.
patience sur ma pause. Peut-être qu'on peut encore récupérer un jus de fruits ou un café, même s'ils sont en train de débarrasser. Parce qu'il y a une autre manifestation après. On peut bien sûr, on va prendre un quart d'heure de pause pour apprécier à sa juste mesure la dernière intervention. Donc, restez,